Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leurs pratiques sportives ou alimentaires, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. N'hésitez pas à vous abonner au podcast car en cette fin d'année, mon emploi du temps, je dois vous dire, est assez chargé et je ne vais pas pouvoir publier malheureusement des épisodes toutes les semaines sur la fin décembre 2018. Bref, abonnez-vous sur iTunes ou SoundCloud pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode. Et enfin, avant que je passe à mon invité du jour, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale le podcast vous apprend des choses, n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou un mot doux sur iTunes, voire même en parler autour de vous. Ça compte énormément, c'est ça qui fait avancer le podcast et ça pourra aussi peut-être, je pense, aider des personnes dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Georges Mohamed Chérif, président et fondateur de l'agence de publicité Buzzman. Vous pourrez le contacter et lui dire d'ailleurs si l'épisode vous a plu sur LinkedIn ou Instagram au pseudonyme Georges Mohamed Chérif tout simplement. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Buzzman, c'est tout simplement l'une des agences de publicité françaises les plus prisées pour son innovation et son audace. Sous la direction de Georges, Buzzman a lancé des campagnes que vous avez très certainement vues passer, Tipex et son ours évidemment, la campagne Milka du dernier carré, Mythique et Love Your Imperfections, ou encore Orange avec Sébastien Chabal et encore beaucoup d'autres. Avec Georges, on a commencé par parler de ses méthodes de travail, de sa fonction chez Buzzman en tant que président, de la manière très particulière dont il a créé la culture d'entreprise Buzzman, de son management aussi, qui laisse une très forte place à l'autonomie. Et puis on est rentré dans le détail de son parcours, qui débute par une enfance de paysan du Lot-et-Garonne, comme il aime dire, passe par une phase de footballeur de haut niveau et finit par créer l'agence Buzzman, un peu sur un malentendu, vous allez en entendre parler. Comme vous l'aurez compris, Georges est une personnalité aussi attachante qu'atypique. Et au-delà du fait qu'il est hilarant, que j'étais assez régulièrement pliée en deux de rire durant toute notre conversation, Georges nous a disséminé un millier de petits conseils ultra pertinents, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Quelques-uns listés en vrac. Pour que ça marche vraiment, il faut que tu ressentes une forme de peur-excitation quand tu lances un nouveau projet. L'erreur de base, c'est d'essayer de valoriser sa marque ou son produit en ne parlant que de soi, alors qu'il faut toujours, toujours se placer du point de vue du client final. Ou encore, quand on recrute, il faut toujours se demander avec sincérité « Cette personne va-t-elle réellement me faire gagner du temps ?» Et enfin, profite, parce que ça passe très, très vite. Comme le souligne bien cette dernière phrase, dite par sa maman sur son lit de mort, « Georges est quelqu'un qui aime la vie, qui la chérit même, et surtout ça se sent, qui distribue avec beaucoup de générosité toute la joie qu'il a à revendre au monde qui l'entoure. » Et franchement, autant d'énergie et de bonne humeur, ça fait juste un bien fou. Juste un dernier petit détail avant de passer à l'entretien. Nous étions dans les bureaux de Georges chez Buzzman donc pour l'enregistrement, dans le 10e arrondissement à Paris. Il y a eu un petit moment sirène d'ambulance, si je puis dire, que j'ai malheureusement pas pu réduire au montage. Donc vous allez devoir, je le crains, le subir. Mais ne vous inquiétez pas, ça dure assez peu de temps. C'est une dizaine de minutes tout au plus. Mais je vous en dis pas plus. Et comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, je laisse place à ma conversation avec Georges Mohamed Chérif. Bonjour Georges et bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis super contente. Ça fait déjà trois quarts d'heure à peu près qu'on discute, qu'on est un petit peu en retard, qu'on s'amuse. Et du coup, en fait, je pensais commencer l'interview d'une certaine manière, mais en fait, je vais complètement chambouler mon petit programme. Ouais. Et j'aimerais bien, si ça te va, commencer par te poser une question sur le retard. Parce qu'on peut le dire, on est entre nous, tu as eu un tout petit peu de retard.
Oui.
Et tu m'as demandé quelle était ma relation au retard, si j'aimais ça ou pas. Et tu m'as dit que toi, t'adorais ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ?
Alors, merci de m'inviter déjà. C'est hyper gentil. Le retard, en fait, je pense que je l'ai masterisé. C'est-à-dire que, en fait, pendant très longtemps, j'étais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui me connaissent, ça va bien les faire marrer parce qu'ils savent que j'ai un peu tendance à être un peu en retard. Mais maintenant, je l'ai masterisé dans le sens où, moi, par exemple, aujourd'hui, j'aime bien que les gens arrivent en retard au rendez-vous. Mmh. Parce que ça me permet, quand je suis parfois pas en avance, parce que ça, il faut pas déconner, ça arrive jamais. Mais quand j'arrive avant les gens avec qui j'ai rendez-vous, ça me donne plus de temps que ce que j'avais prévu. Mmh. Donc, ça me permet de faire des trucs que j'avais pas prévu de faire. Donc, j'ai l'impression de gagner du temps sur un timing qui était pas le mien, en fait.
Très bien.
Donc, je trouve que ça. Et puis, souvent, dans ce timing-là, je fais vraiment des trucs hyper importants. Mmh. Je fais pas des trucs futiles. Genre, je me dis, ah putain, j'ai pas fait ce mail, j'ai pas envoyé ce SMS, j'ai pas regardé ce truc.
Ouais, bah t'as une contrainte de temps en plus parce que tu te dis,
la personne va arriver.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, en gros, t'es obligé de faire un truc de façon hyper productive.
Exactement. Mais c'est vrai que, j'ai mes amis, j'ai pas posé beaucoup de lapins, mais j'ai fait attendre beaucoup de gens. Moins maintenant, vachement moins maintenant. Mais à une époque, j'ai un pote à moi, Pierre Do, que je salue, qui avait sorti cette phrase que j'avais adorée, qui était « On attend Georges d'une minute à l'heure ».
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une phrase qui
peut en dire long sur moi. Mais c'était avant. Maintenant, je me suis calmé. Il paraît qu'il y a un quart d'heure parisien qui est admis.
C'est ça. Donc, nous, on a eu le petit quart d'heure parisien. C'était très bien. Et du coup, je voulais enchaîner sur rien à voir, mais sur commencer par tes méthodes de travail. On va parler un peu de tout, je te préviens. Mais j'aime assez parler de ça. Et en gros, j'ai fait donc mes recherches sur toi et je me suis rendu compte que tu parles assez souvent d'empathie et d'émotion dans ton boulot, ce qui est assez rare en fait dans le milieu professionnel. J'imagine que ça veut dire pour toi que tu parles aussi, quand tu fais ça, de constitution d'équipe. J'imagine que dans le milieu de la pub, dans une boîte comme Buzzman, où vous avez créé des campagnes incroyables comme Tipex, Minka, etc., qui sont des campagnes vraiment hyper connues, que les personnes, trouver les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, c'est absolument clé. Et du coup, je voulais savoir si tu as une méthode, entre guillemets, ou quel est un peu ton process ou ta façon de penser quand tu soit recrutes des personnes dans un premier temps et aussi quand tu t'entoures, parce que j'imagine que tu as des personnes qui te conseillent aussi et qui ne sont pas
bien
forcément
sûr
employées.
Tu touches un point qui est fondamental pour l'agence et pour l'agence et pour moi et pour même la façon dont je gère ma vie. J'ai longtemps fait ça un peu à l'intuition, que ça soit les recrutements ou les clients avec lesquels on travaille. Tu sais, des fois, tu reçois un mail d'une personne qui cherche du boulot et tu sais pas pourquoi tu l'ouvres ou pas. Tu vois, des fois, tu sais pas vraiment. Et puis, tu cliques sur le mail et tu vois la personne et tu dis, putain, j'étais à deux doigts de pas cliquer sur ce mail et j'ai cliqué dessus. Et cette personne, 8 ans après, on bosse ensemble. Donc, il y a une grosse part d'intuition, je crois. Je le dis souvent, mais moi, j'étais beaucoup élevé par des femmes, par ma maman et par mes sœurs et tout. Donc, je pense que je dois avoir une sensibilité féminine peut-être au-dessus de la moyenne.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'en réalité, c'est quand même un métier où tu peux pas écouter des histoires. Enfin, moi, mon travail, en gros, c'est quoi ? C'est des gens qui me briefent, et ensuite, j'écoute des créatifs ou des planeurs ou des commerciaux de l'agence qui me racontent des histoires, et je dois me dire, tiens, cette histoire, elle va plaire aux gens.
Ouais. Faut que tu arrives à créer une émotion, quoi.
Voilà, donc moi, il faut que ça me touche. Et surtout que j'arrive à me dire, est-ce que ce truc-là, ça va toucher les gens? Tu vois, donc c'est assez égocentrique parce que c'est comme si tu disais ton avis à toi va être le goût de tout le monde. Donc c'est d'abord, il faut avoir un certain ego. Des fois, on me dit.
Ouais, ou de l'empathie, quoi. Enfin.
Ou alors voilà, en fait, il y a de l'ego parce qu'il faut penser que t'as raison. Donc il faut quand même avoir une certaine confiance en soi aussi. Et après, l'empathie, c'est un truc où. Moi je pense que c'est vachement de bons sentiments en fait. Moi j'aime bien faire marrer les gens, j'aime bien tu vois, moi c'est simple hein, tu prends le cinéma, moi je vais au Cinoche, j'ai envie de chialer et j'ai envie de rigoler. Si on fait un truc assez binaire et j'adore qu'on me raconte un truc où je me dis waouh, ça va être hyper ça va toucher les gens, ça va peut-être même leur mettre un peu des quand Swen, je racontais cette anecdote la dernière fois, Swen Levan, qui est une créative de l'agence, elle m'a raconté la première fois le film Delcé. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Non.
C'est un film en animation qui dure 3 minutes et demie, pour lequel on a eu le grand prix du Brain Content.
D'accord, bah je regarderai.
C'est Delcé, What Matters is Inside.
Ouais, j'ai vu que vous aviez Delcé comme client, mais je n'ai pas regardé.
Bah, regarde-le, franchement. Ouais. La première fois qu'elle me l'a raconté et qu'elle nous l'a raconté à tous, à la fin de la. Tu vois, elle a fini de le raconter, on s'est tous regardés, on avait tous un peu. Tu vois, pas la larme à l'œil, mais pas loin, quoi. Ce qui est assez génial, ouais. c'est un bonheur quand même, ouais, d'avoir ce genre de sentiment. Et la première fois qu'elle me l'a remontré en maquette, c'était en noir et blanc, avec une maquette vite fait et tout, et j'ai vraiment chialé. C'est-à-dire que je l'ai regardé, tu vois, rien que d'en parler, ouais. Je me rappelle le moment où je l'ai vu et tout. Alors évidemment, c'est basé sur un truc sur ta famille, ta mère, ton père, la mort des parents et tout, donc c'est forcément, et d'ailleurs souvent quand on le montre à des gens, tu sens que ça remue un peu les gens. Tout ça pour dire qu'effectivement il faut avoir de l'empathie, et la première empathie, c'est si un truc te touche comme ça ou que ça te met un peu des frissons et tout, normalement tu dois te dire tiens, d'autres gens vont avoir la même émotion que moi. Donc l'empathie, pour moi, c'est un truc qui nous permet de faire des bons choix pour le travail qu'on fait, qui est du pur divertissement, en fait.
Ouais, bien sûr. Et du coup, ça, tu dirais que tu le mets en place aussi, cette empathie, tu l'utilises aussi dans le cadre des recrutements, du coup, et simplement des relations que tu peux avoir avec les gens qui t'entourent, quoi.
À fond, mais Dieu merci, pas que dans mon travail, j'essaie de l'avoir aussi dans ma vie perso. Après, dans le recrutement, c'est vrai que c'est un truc qui est... je sais pas, après, tu sais, c'est comme dans un couple... Ou quand tu rencontres une femme, ou quand une femme rencontre un homme, t'as des gens qui te font vibrer. Alors ça, c'est l'aspect émotionnel. Et dans le taf, moi, il y a un autre truc qui est rationnel. Et aujourd'hui, j'ai réussi à le simplifier en une phrase. Quand je rencontre quelqu'un pour le recruter, je me dis, est-ce que cette personne va me faire gagner du temps ou est-ce qu'elle va m'en faire perdre?
Absolument clé. Voilà. Ça, c'est
donc
clair.
C'est la phrase. Après 12 ans de l'agence Buzzman, où je me suis dit, tiens, en fait, le vrai truc, en 5 minutes, tu vois, la personne, elle est en face de moi, des fois, elle me parle, et j'écoute même quasiment pas trop ce qu'elle me dit, et j'arrive à me dire, tiens, cette personne, est-ce qu'elle va me faire, est-ce qu'elle va me faire gagner du temps, est-ce qu'elle va me faire perdre, parce que c'est en vrai le sujet, c'est beaucoup le temps. Sachant que le pendant de ça, qui est un vrai truc, qui est un truc que les gens savent pas forcément, et je pense que c'est bien de le dire quand les gens ont l'image de l'entrepreneur hyper busy, qui travaille beaucoup et qui se lève le matin à 6h du matin pour lire le RL Tribune ou le Figaro, c'est pas moi. Moi, je suis un branleur.
Non, mais c'est vrai. Sais bien tantôt, ouais.
Je suis un feignant, en fait. Je suis un feignant. Non, mais c'est vrai.
Tu sais, moi, c'est marrant que tu dis ça parce que, alors, si tu le dis, je veux bien te croire, mais en fait, j'ai la sensation que beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès, en fait, ont du succès parce que, comme ils n'aiment pas tellement bosser, en vrai.
Alors, c'est ça qui m'a rabâché.
On réussit à vachement s'entourer, alors, quoi, avec des personnes géniales.
Je te le dis honnêtement, je n'ai plus de mal aujourd'hui à le dire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens comme moi, des entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Ces dernières années et tout, et du coup je le dis plus ouvertement parce qu'au début je trouvais que c'est un peu honteux, et évidemment comme on subit tous le syndrome de l'imposteur, on se dit merde, si je le dis trop ça va finir par se voir, et donc moi je suis un feignant, moi j'aime pas bosser, donc si tu veux le matin je me lève pas à 6h du matin pour lire les journaux.
Ah, très bien.
Quand je dois aller bosser, alors j'ai une chance inouïe, c'est que le matin je me dis pas que je vais bosser parce que c'est ma passion, mais en vrai si je peux bosser que l'après-midi et 3h, ça me va très bien. C'est malheureusement pas tout le temps possible. Et c'est normal parce que voilà, j'ai des responsabilités, j'ai beaucoup de clients et j'ai la responsabilité des gens qui sont à l'agence. Mais typiquement, par exemple, je suis vachement dans la responsabilisation aussi.
C'est ça, t'apprends à déléguer du coup naturellement.
J'apprends à déléguer et pour ne rien te cacher, je sais, et ça fait des années qu'on me le dit à l'agence, qu'il y a des gens qui aimeraient me voir plus souvent. Mais dans mon mindset, je me suis fait croire à moi-même que c'était bien que je les vois moins, donc que je puisse avoir plus de temps pour moi. Et en réalité, je me suis rendu compte avec les années que le fait que les gens soient un peu livrés à eux-mêmes, bah, ils devenaient meilleurs. Parce que t'es pas derrière leur cul et t'es pas toujours en train de surveiller ce qu'ils font. Donc il y a beaucoup d'autonomie à l'agence.
D'accord.
Il y a des jeunes personnes qui peuvent souffrir de ça parce que quand t'arrives, t'as besoin d'être bordé et d'être guidé et tout ça. j'ai un peu pris une sorte de sens inverse à ça où je dis, bah, je l'ai, tu sais, comme quand tu apprends à quelqu'un à nager, tu le fous à la flotte, ouais, tu le jettes dans l'eau et finalement il se démerde à nager en fait. Je suis plus là-dedans.
Mais c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui, comme ils sont passionnés et tu vois, croient vachement à leurs produits et tout, se mettent énormément la pression, notamment au niveau un peu exemplarité. Sincèrement, j'ai complètement été dans ce cas-là où, en gros, avec mes associés dans ma boîte, on a travaillé non seulement quasiment 7 jours sur 7, mais vraiment des très longues heures. Parce qu'en fait, s'il y avait n'importe qui restait dans le bureau plus que nous, bah, on se disait, ça donne un mauvais exemple. Mais je trouve ça hyper rafraîchissant que tu dises à toutes les personnes qui nous écoutent, qui se mettent la pression, qu'en fait, non, il faut apprendre à déléguer et que, au contraire.
Il vaut mieux en réalité. Tu sais, alors c'est un cliché de dire que c'est bien de s'entourer des gens qui sont meilleurs que toi. Moi, je n'ai pas plus grand plaisir à me dire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que de savoir que je suis entouré par des gens qui sont sur certains sujets meilleurs que moi, c'est hyper rassurant. Et honnêtement, ce que tu viens de dire sur la façon dont tu te comportais, je l'étais comme ça au début. Ouais. Et honnêtement, j'étais pas cool avec mes employés.
Comment tu as eu le déclic?
Je pense qu'en fait, jusqu'à 20 personnes, j'essayais de tout faire, je bossais comme un chien, j'avais plus de vie, j'étais toujours derrière le. Tu vois, je devenais un peu. En vrai, je devenais un peu hystéro, tu vois. Il n'y avait rien qui m'allait et tout. En plus, c'était marrant parce que ça, c'est aussi un truc pour les gens qui veulent créer des boîtes. Au début, on ne va pas se mentir, tu bosses avec des jeunes, tu n'as pas de blé pour payer des seniors. Donc, tu bosses avec des jeunes qui, par définition, sortent de l'école ou ont eu leur première expérience. Donc, c'est pas des tueurs. Donc, toi, tu attends d'eux que ça soit des tueurs, sauf qu'en fait, eux, ils attendent de toi que tu leur apprennes. Et en même temps, toi, tu veux que le résultat, il soit là maintenant, tout de suite, parce que tu as un autre feu à éteindre. Et en fait, je pense à une personne qui s'appelle Cléo et j'étais tellement dur avec elle. Et alors, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que quand elle me revoit, elle me dit, mais t'as été un papa pour moi. C'est-à-dire que je lui ai appris son taf et tout, mais elle en a chié, quoi, parce que j'étais derrière elle, j'étais jamais content. Tu vois, le truc d'être satisfait, par exemple, l'énergie d'être satisfait te demande d'être au calme.
Ouais.
Tu peux pas être satisfait quand t'es en feu. Quand t'es en feu, t'es en feu, tu peux pas. T'as même pas le temps de t'arrêter et dire oh, ah, c'est cool. Et d'ailleurs, je pense que c'est au fur et à mesure, je pense que mon corps à un moment m'a dit tu peux pas continuer sur ce rythme.
Ouais, y a un moment
je pense
où
que
tu
pendant
dis,
3 ans, à un moment, ton corps il dit vas-y, il faut que tu te calmes. Je sais pas, j'ai jamais été proche d'un burn-out, mais tu vois, à un moment, tu fais bon, attends, ça va, j'ai aussi ma vie perso et tout ça, mais. Et surtout, je me suis toujours. Ça, pour le coup, je l'ai toujours fait. Quand on gagnait un budget, j'ai toujours fait un stop. Tu vois, j'ai toujours.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ben, genre, je disais, on s'arrête, on boit un coup, on rigole et on arrête de taffer et on en profite. Parce qu'en fait.
Ouais, donc aussi savoir apprécier les moments de victoire, quoi. Pas juste être en permanence dans la course en avant de il faut faire plus, il faut faire plus.
Ouais, parce que sinon, au bout d'un moment, tu dis, mais pourquoi je cours en fait ? En fait, je cours pour gagner, mais en fait, quand je gagne, je suis pas content. Donc, du coup, en fait, je cours pourquoi ? Et d'ailleurs, j'ai même fait l'inverse. C'est que même quand on perdait des pitchs, en fait, on faisait aussi des pots. En se disant, en fait,
mal.
On a perdu, mais en même temps, on s'est défoncé. Donc, il y avait aussi la récompense du travail bien fait. Pas celui qui a gagné, mais celui qui a permis de pas avoir été ridicule pendant le travail.
Carrément.
Et en fait, je pense que fêter ses défaites, c'est assez enrichissant, en fait.
Ouais, complètement. C'est un truc que vous faites toujours ou plus tellement ?
Ces derniers temps, pas beaucoup, parce qu'on a gagné trop de trucs.
Très bien.
Oh, le connard.
Non, mais c'est bien, connard, tu disais, faut un peu d'ego. Écoute, je constate.
Non, mais moi, je fais beaucoup de provocations sur ce style-là, mais franchement, moi, j'aime bien faire la fête, j'aime bien bouffer, tu vois, j'adore la bouffe, j'adore picoler avec mes potes, j'adore rigoler. J'ai un peu tendance à être un peu relou d'ailleurs, parce que tu vois, dans des moments où, genre une heure avant une presse où tout le monde est stressé et tout, je peux mettre Bob Marley, écouter de la musique et danser, ce qui peut un peu énerver quand
stressé,
tout le monde est en panique. Et je dis non, mais on s'en fout, on va se démerder et tout. En vrai, c'est marrant, parce que quand je voyais Barthez à la Coupe du Monde, je me suis rendu compte que c'était un peu comme ça. Tu sais, Barthez, il était toujours en train de se fendre la gueule pendant les hymnes. Et en fait, quand t'écoutes ce qu'il dit après, en fait, c'était une façon à lui de décompresser.
Ouais,
donc, c'est aussi parfois une sorte de de truc lymphatique, enfin tu vois, un truc de nonchalance,
ouais, complètement
déguisé, mais en réalité au fond de moi, tu vois, j'ai dû, des fois je vais faire des pitchs, j'ai le trac.
Ouais, et puis même en tant que président, j'imagine que tu as quand même un rôle. On parlait d'exemplarité, si toi tu flippes tes employés,
mais c'est des fois je flippe au fond de moi, mais je me dis, mais je peux pas leur montrer, donc je fais le mec hyper cool, alors qu'en fait au fond de moi je me dis, mais putain, s'ils pouvaient voir comment j'ai la gorge qui est serrée et tout ça.
T'as eu un moment dont tu peux me parler où tu te rappelles que t'as eu peur comme ça, vraiment un flip dans le cas de Buzzman?
Ah, mais il y en a un qui est terrible, c'était une présentation SFR. C'était le premier gros pitch quand Thomas Granger, donc mon associé vice-président, il venait d'arriver. Genre, il est arrivé en novembre et en décembre, on a été pitché et c'était mon ambition avec lui. Je lui ai dit, j'aimerais qu'on aille taper des grosses marques et qu'on devienne leur agence globale. Ouais. Et genre, un mois après, on a ce pitch-là. Et en fait, moi, j'avais prévu que ça nous arriverait dans 6 mois ou dans 1 an. Pas du tout. Un mois après, on a ce pitch. Et on arrive en presse. Et là, il y a 20 personnes autour de la table. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout armé. Tu vois, je suis très à l'aise pour parler, mais je ne suis pas armé. Tu n'as
pas les outils commerciaux, quoi.
Enfin... Non, je ne suis pas armé pour parler devant 20 personnes. Ouais. Et je me mets dans une crise de panique intérieure et d'angoisse, vraiment. Et je me dis, je ne vais pas pouvoir parler.
Donc, tu as le souffle coupé, quoi. Tu n'arrives plus à parler.
J'ai le souffle coupé et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire et tout. Je suis sorti de la réunion. Je suis allé aux toilettes. Je suis allé boire de l'eau. Je me suis mis, enfin, comme dans les mauvais films où les mecs se font des crises et tout ça. Je me suis mis, panique attaque. Je me suis
foutu
de l'eau sur la tête et tout. Et je me suis dit, putain, je peux pas faire un refus d'obstacle là. Ouais. Là, c'est une chance qu'on a. Il faut que je les cartonne, les mecs. Il faut que je les fasse bander. Il faut que je les fasse, tu vois, il faut que je les fasse rêver et tout. Et puis, je sais pas, je suis revenu dans la salle. Je pense que personne n'a vu ça.
Ouais.
Je pense même que Thomas, je crois qu'une fois, je lui avais raconté ce truc. Je sais pas s'il s'en rappelle. Donc, peut-être s'il écoute, là, ça le fera marrer. Mais ouais, et personne n'a rien vu. Mais il y a que moi. Je me disais, putain, mais je suis tellement pas bien et je ne suis le président de cette boîte. C'est moi qui devais raconter la création et tout. J'ai pas le droit, en fait. Et des fois, quand t'as pas le droit,
Tu sais pas.
Ouais. Ou alors, tu fais, tu sais, en fait, je m'en fous. On verra bien, quoi.
Et alors, justement, pour parler du rôle du président, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton rôle de président? Ça veut dire quoi être président d'une agence de pub?
Écoute, je crois que j'ai quand même cassé pas mal de barrières là-dessus.
Parce que toi, tu as un rôle quand même qui est encore assez... tu parlais au téléphone juste avant avec un de tes clients, tu as quand même un rôle assez opérationnel d'une certaine manière, où je te sens être très impliqué dans toutes les créas, dans les réunions d'équipe, etc. Donc, ce n'est pas un rôle, on va dire, administratif.
Ah non, moi, je suis tout l'inverse d'un chairman.
Ouais.
Tu sais, j'adore ce mot chairman, le mec de la chaise.
Il est sur une chaise.
Mais non, moi, je suis tout l'inverse de ça. D'abord, il y a un truc, c'est que quand j'ai créé l'agence, moi, j'ai fait un truc simple. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai aimé dans mes précédentes expériences et qu'est-ce que j'ai détesté.
D'accord.
Donc après, j'ai fait, je vais faire un mix de ce que j'ai aimé et je vais bannir tout ce que j'ai détesté parce que c'est moi qui vais être le boss, donc je vais faire exactement ce que je veux. Ce qui est, on y oublie un peu, mais en fait, le truc sur les entrepreneurs, en réalité, c'est le seul truc intéressant.
Bah, bien sûr.
C'est que tu fais ce que tu veux, en fait.
Tu crées tes règles.
Et tu fais ce que tu veux et c'est ce qui est bien. C'est si tu fais de la merde, tu fais de la merde. Si tu fais un truc génial, tu peux te dire, putain, j'ai pas été mauvais là-dessus. Donc, C'est un peu le...
Et excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, t'aurais quoi comme exemple de choses que t'as banni, justement?
Les trucs que j'ai banni, c'est tout ce truc de hiérarchie. Alors, dans la pub, c'est un peu technique, mais je pense que je vais dire des trucs que les gens peuvent comprendre. En gros, t'as les commerciaux et les créatifs, pour faire très schématiquement. Ouais. Les commerciaux, c'est les mecs qui sont supposés porter des maquettes et pas avoir de cerveau, et les créatifs, c'est les mecs qui sont les mecs génies et tout ça. C'est pas en vrai, c'est pas vrai. Il y a des commerciaux qui sont des génies et qui ont des idées, et des créatifs qui sont en vrai pas vraiment des artistes. Donc déjà, j'ai fait un truc, c'est que j'ai fait en sorte que ces gens-là se parlent et qu'il y ait un vrai discours entre eux, une vraie discussion. Et j'ai trouvé un truc très con, et je pense, franchement, j'ai déjà posé la question à pas mal de gens, et je pense que je suis... Potentiellement, je suis le seul directeur de création au monde à faire ça. Dans une agence, les commerciaux, les créatifs, ils montrent la création au directeur de création avant. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord, on monte la création aux commerciaux, parce que c'est eux qui vont aller la vendre.
D'accord, mais juste pour leur montrer, ils n'ont pas d'avis à donner, quoi.
Si, bien sûr. Ils peuvent te dire, ah ben non, je pense que ça, le client, il va pas acheter. Ce qui fait que d'un coup, des fois, tu as fait tout un tour et tu reviens au point zéro.
C'est un peu bête.
Donc moi, j'ai fait un truc, c'est que je me suis dit, en fait, on va pas faire comme ça. Je vais impliquer les commerciaux dans la création. Donc les créatifs montrent aux commerciaux. Donc finalement, les commerciaux deviennent un peu les sous-directeurs de création, genre le filtre à la fois client, du client.
Ouais.
Oui, mais pas que. C'est ça, c'est là où l'astuce est, c'est qu'ils sont aussi le filtre de la création. C'est-à-dire qu'ils vont me montrer à moi derrière. Mmh. Donc moi, quand je vais leur dire, si un mec me présente un truc et que c'est pas bien, je vais autant torpiller le créatif que le commercial. Et je vais dire, tu penses vraiment que ça, c'est un truc vraiment créatif et bien? Donc si tu veux, tout le monde est responsabilisé.
Ouais, d'accord.
Et en fait, maintenant, si tu veux, les commerciaux et les créatifs, c'est devenu des alliés pour me convaincre.
Oui,
au lieu d'être des gens qui sont l'un
qui
contre l'autre.
Qui se tirent dans les pattes en général.
Voilà, exactement.
Ouais. Hyper intéressant.
Et de la même façon avec les clients. Dans la vie des vrais gens, dans la vie d'une agence, l'agence, c'est les gens intelligents et le client, c'est le connard qui comprend rien et qui a juste l'argent. C'est pas exactement comme ça. Déjà, il y a un truc, c'est que tu dis aux gens, déjà, un, ils te payent, et deux, les mecs qui ont créé ces business-là, c'est que déjà, ils ont quand même.
Ils doivent connaître un peu leur métier aussi.
Ils connaissent un peu leur métier, et visiblement, ils ont quand même fait un truc qui marche bien. Mm. Donc, déjà, tu as le droit de les respecter juste pour ça. Après, il y a juste un transfert de monnaie. C'est-à-dire que nous, moi, je leur dis, il faut que tu fasses comme si c'était ton argent. Mm. Donc, si c'est vraiment ton argent, est-ce que tu vas vraiment faire l'idée que tu viens de me raconter? Mais c'est marrant comme filtre.
Je trouve que c'est hyper intéressant.
Dès que ça devient ton pognon, tu dis ouais, c'est peut-être juste rigolo mon truc, mais je sais pas si je mettrais tapis sur ça, quoi.
Mais tu vois, moi, c'est bête que t'en parles là, mais dans ma boîte, souvent les gens me disent, des personnes qui écoutent le podcast, etc., comment tu choisis en gros les pubs que vous allez faire, même pas forcément au niveau de la créa, mais vraiment au niveau même du média que tu vas employer. Ouais. Et en fait, je dis, mais moi, en fait, ma clientèle, c'est un peu moi. Je ne fais que des choses qui, moi, me parleraient vraiment. Moi, tu vois, s'il y a un truc que
règle,
je regarde jamais, mais évidemment que je ne vais pas aller payer une pub pour ça. Et en fait, les gens l'oublient trop souvent.
Mais c'est pour ça que la règle qui revient à la règle de tout à l'heure, c'est quand tu es entrepreneur et que tu es le boss, en fait, il faut faire ce que tu aimes. Tu vois, moi, j'adore Fanny de My Little Paris parce que, en fait, elle a réussi avec que des trucs qu'elle aime.
Bien sûr.
Et en fait, c'est du génie. En fait, c'est tu fais ce que tu aimes, tu es payé pour. Et tu fais kiffer des gens. Enfin, tu vois, franchement, ça n'a pas l'air compliqué, bordel.
Écoute, ouais, bah, c'est pas si simple quand même, mais bon.
Non, bien sûr que c'est pas simple. Alors, c'est un peu à résumer, mais donc, pour revenir à la façon dont moi je gère la boîte, et en fait, je gère la boîte en disant aux gens qu'ils doivent être comme ça avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas que moi qui dois faire ça. C'est-à-dire que moi, je peux pas le faire tout seul, et deux, c'est quand même plus simple. La culture de la boîte, elle est quand même très forte. On va pas se mentir. Le vrai truc dont je suis le plus fier, je pense, on a fait des campagnes qui ont été
mythique,
remarquées, qui ont été vraiment cool et tout. On a rendu contents des clients. On a donné des petits plaisirs à des consommateurs parce que je pense que c'est aussi ça qu'ils nous le rendent à travers les ventes qu'ils ont faites. Mais franchement, le vrai truc, c'est la culture de la boîte. Je trouve que dans l'agence, je peux pas dire mieux. J'aurais adoré bosser dans cette boîte. J'aurais adoré bosser dans ma boîte. C'est-à-dire, j'aurais 25 piges aujourd'hui et tu me mets dans cette agence. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent pas.
Ouais, bien sûr.
Ils ne connaissent pas les autres boîtes. Mais je leur dis, hé les mecs, profitez bien. Profitez bien parce qu'un jour, comme vous êtes bons, vous allez vous faire débaucher par d'autres boîtes. Mais vous allez voir, c'est pas pareil dans les autres boîtes.
Bah, surtout que les agences de pub n'ont pas la réputation quand même d'avoir une très très bonne ambiance. Enfin, ça peut avoir une bonne ambiance, mais des beaucoup d'heures de travail, beaucoup de pression.
Ouais, alors après, ça taffe. Hein. Il y a du boulot. Hein. On bosse beaucoup moins à l'agence. Je pense qu'on est mieux organisé. Et pourtant, on est la seule agence à ne pas avoir de trafic. Pareil, ça c'est un truc.
Ne pas avoir de trafic, qu'est-ce que tu veux dire ?
Traffic manager, c'est... pour faire simple, t'as 10 commandes et t'as une personne qui fait en sorte que ces 10 commandes, elles sont dispatchées. En fait, c'est le dispatching des tâches.
D'accord.
Nous, on n'en a pas. On est la seule agence. On fait ça entre nous. On se trouve, on dit...
qui a envie de gérer ce projet, quoi ?
Alors non, c'est entre les boss.
D'accord.
On se réunit, mais tu vois, on fait même pas des réunions. Des fois, on se le dit dans un couloir. On dit, tiens, sur tel sujet, si on mettait lui et lui et elle et lui... Ouais. Ouais, ok, c'est bon, fais comme ça. Sauf que maintenant, on est 120 ou 140, je sais plus. tu vois, quand t'es 20, ça va.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, j'ai toujours dit à Thomas, le jour où on aura un trafic, ça y est, on sera une grosse agence.
Ouais.
Et je ne veux pas être une grosse agence.
Ouais, bah, c'est comme ça aussi que tu gardes ta créativité, enfin, j'imagine.
Mais en vrai, on en est une grande. Mmh. Parce que si tu veux, quand tu vois les pitchs sur lesquels on est contre Publicis, Havas, TBWA, DDB. Mmh. Tu vois, en vrai, on est une grosse agence. Mais on n'est pas une grosse agence dans son truc. Et ça, franchement, c'est un travail de tous les jours et de toutes les minutes. Mmh. C'est-à-dire que la culture de la boîte, elle fait beaucoup aussi dans les gens. Parce que tout ça est vertueux. Dans les gens que tu attires, ouais. Donc les talents, et les clients que tu attires. C'est-à-dire les clients que nous, on attire, c'est une certaine catégorie de clients. Ils ne sont pas forcément plus intelligents que les autres, mais dans leur mindset, le premier mindset qu'ils ont, c'est qu'ils se disent, quand je prends des mecs comme Buzzman ou ce genre d'agence, je pense que la publicité sert à quelque chose.
Ouais.
Et donc, je veux faire des idées qui vont faire progresser mon business avec des idées fortes. Comme on se le disait tout à l'heure en off, avant de commencer les
qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur d'avoir des idées aussi assez radicales quand même. On en parlait justement.
Parce que c'est sûr avoir, enfin, présenter une idée, de toute façon, une idée qui n'a jamais été faite et qui est où il y a un vrai parti pris, c'est toujours une idée qui te fait un peu vaciller quand même. Enfin, tu vois, où tu fais waouh, est-ce que je vais vraiment faire ça? Moi, je comprends hein, le petit vertige que les annonceurs ils ont en face de nous des fois. Moi, je le sais d'ailleurs et j'en joue. Tu vois, il y a une sorte de théâtre entre eux et moi. Où je sais que ça va les faire paniquer et j'en joue, tu vois, des fois je tu vois dans le storytelling de comment je le raconte, je veux vraiment que la personne elle a l'impression qu'elle est en haut d'une falaise, sauf qu'elle va être dans une falaise et qu'elle va se dire mais devant moi il y a un matelas de 1000 km, c'est-à-dire que elle va sauter mais elle sait que tout ça ça va être cool.
Puis c'est un horizon de possibilités qui
s'ouvre. Ouais, tu vois, c'est alors après on n'a pas toujours des idées qui donnent ça mais je sais que quand on a des idées, tu vois, quand on allait voir les mecs de Milka en leur disant on va enlever un carré de chocolat dans toutes vos tablettes de chocolat, si tu veux, je me rappelle très bien, Elisabeth Bloch, qui bossait à l'époque chez Mondelez, m'a regardé comme ça. Donc, je lui raconte.
Tu peux, juste pour les personnes qui n'ont pas vu la pub, même s'il y en a
que je fasse
raconter
un
tout petit peu, expliquer la pub.
En gros, donc Milka, leur signature à l'époque, c'était Oser la tendresse. Ils nous ont dit, voilà, faites-nous une campagne qui exprime ça. De la façon que vous voulez, si vous voulez faire de la télé, de la radio, de l'affiche, bref. Et nous, on arrive avec une idée où on a dit, voilà, en fait, la plus grande façon d'oser la tendresse dans un chocolat, c'est de le dernier carré, de ne pas le manger et de le donner à quelqu'un que t'aimes.
Génial.
Mais pour ça, on est allé beaucoup plus loin, c'est qu'on a enlevé, pour que l'idée soit forte, et grâce au digital, parce que c'est aussi ça, le point fort de l'agence, je pense, c'est, on s'est dit, avec le digital, on peut mettre un code dans la tablette, on enlève de chaque tablette, donc il y avait vraiment une tablette, mais littéralement, il manquait un carré de chocolat, et où on te disait, voilà, on a enlevé un carré de chocolat, donc il y a deux solutions, soit on vous le renvoie, il est chez nous, soit on vous le renvoie, soit vous allez sur tel site et vous nous dites à qui vous voulez l'adresser avec un message de d'amitié, cadeau, en fait, tu vois, d'amitié, ou alors tu l'envoies à ta mère, ta grand-mère, ton mec, ta meuf, ce qui tu veux. Ou un ami. Et donc, je raconte ce truc qui est quand même, à mon sens, une des plus belles, voire la plus belle idée qu'on ait jamais eue. Parce que pour moi, c'est le Graal, en fait. Tu touches le produit.
Repenser le produit, c'est ça, j'allais dire. C'est surtout un produit aussi iconique qu'une tablette.
Et puis, je crois que c'était 3 millions de tablettes qui, au final, c'est fini en 10 millions, puisqu'en fait, ils l'ont fait dans l'Europe. Donc, tu vois, c'est pas un truc genre... C'est pas un prototype, quoi.
C'est ça.
C'est genre, t'en fais 3 millions. Ouais. Et je me rappelle très bien de sa tête. Enfin, on présente le truc. C'était un matin, je me rappelle, à Vélizy. Et je lui raconte l'idée et tout. Évidemment, les clients, souvent, tu sais, ils sont en poker face. Genre, ils te regardent, zéro émotion.
Bien sûr.
Donc, tu continues de raconter et tu sais pas du tout.
Ça doit pas être facile, d'ailleurs.
Ah,
mais
c'est
bon.
Terrible. Quand tu as ce genre d'idée, c'est terrible parce que tu sais pas. Tu sais pas si la personne en face de toi, en l'occurrence, t'as cette personne, Elisabeth, qui me regarde, genre... qui est un peu interloquée, donc elle sait pas, elle est maligne parce qu'elle joue un peu le game de je comprends pas trop ce que tu me dis, est-ce que je comprends vraiment ce que tu dis, parce que si je comprends vraiment, je pense que
t'es vraiment un taré
voilà. Et donc à la fin du truc, elle me dit ok, très bien, vous avez fini? Je dis ouais. Elle me dit mais vous avez pas une autre idée? Et là, la façon dont elle dit, à l'intérieur de moi, je suis en puzzle,
elle
m'a cassé en mille. Et je me dis putain, ça fait chier, parce que moi je l'adorais cette idée, tu vois, je me dis putain, donc elle verra jamais le jour. Et pareil, je lui fais un poker face et je la regarde et je lui dis franchement, sur votre brief, oser la tendresse, il n'y a rien de mieux que ça. Et là, la meuf me dit, c'est un pitch, hein, et elle me dit, ouais, vous avez raison, il n'y a rien de mieux.
Énorme.
Et donc, je savais qu'on avait gagné le pitch avant même d'avoir, qu'elle ait vu les autres agents. Parce que... Et alors après, surtout, ce qui est fou, et c'est là où le... C'est là où le...
Ils l'ont fait quand même, hein. C'est ça qui est...
C'est ça qui est dingue, c'est qu'elle est allée avec Sophie, elle s'en est allée en Europe. En fait, cette idée-là, elle est folle du début à la fin. Le mec a eu l'idée, nous qui l'achetons, le client à qui on la montre, elle pense à aller devoir à l'Europe parce que évidemment l'idée coûtait cher parce qu'il fallait, t'imagines, il fallait voir tous les ingénieurs, faire tout l'outil de fabrication. Et en fait, elle allait présenter en me disant, je sais pas comment ça va se passer, les mecs à Lausanne, ils sont pas forcément très rigolos, les mecs de l'Europe et tout. Et elle présente, donc deux jeunes meufs un peu tarées comme ça, un peu enthousiastes. Et là, elles ont en face d'elle des je sais pas quand même la raconter, elle me l'a raconté comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai imaginé, genre des mecs un peu en costard, un peu sérieux. Et genre les mecs se sont levés, ils ont applaudi. Et donc si tu veux là, elles se sont dit, oh putain, le truc va aller plus loin. Et les mecs lui ont dit, on va pas le faire en France, on va le faire dans toute l'Europe. Donc si tu veux, et le truc a été retardé, bref, le truc a duré un an et demi. Et moi, ma plus grosse angoisse, c'était si l'idée qu'on a, elle sort quelque part, si ça fuite, quelqu'un peut le faire. Un an et demi d'attente et on a réussi à le faire. Et le jour où ça le fait et tu vois la réaction des gens sur les réseaux sociaux et tes potes, et tu dis putain, c'est cool quoi. Donc t'as des trucs comme ça qui sont... je pense que c'est aussi ça, hein, c'est... on court après ce genre de truc. Tu vois, moi, j'appelle ça comme comme quand tu fais un tube en musique. Je pense que c'est un...
Ouais, c'est un peu une série de circonstances. Enfin, c'est le truc parfait au bon moment, la bonne personne. Enfin, c'est...
Et l'adrénaline que t'as, moi, je pense que une des vieilles frustrations que j'ai. Ça a toujours été le... J'ai une image comme ça où... moi, j'adore la zik, mais je suis nul. Je sais pas jouer d'aucun instrument. Je sais pas... Et en fait, j'ai toujours ce fantasme d'imaginer, tu sais, quand les mecs font un tube et que, tu sais, je sais pas si t'es déjà allé en studio.
J'ai eu la
chance, par mon métier et tout, de voir comment ça se passe. T'as des mecs qui sont derrière une vitre, ça joue. Tu sais, le grand cliché des films et tout ça. Donc, t'as un mec qui joue et tout ça. Et après, il revient avec les gens dans le studio, avec l'ingénieur du son. Et là, ils mettent play. Et là, ils écoutent. Et j'imagine toujours ça avec genre James Brown, Sex Machine. C'est-à-dire quand le mec a chanté et qu'ils disent « Ok, c'est bon, t'as fait tes prises. » Et donc le mec s'assoit et donc il met play et il y a la musique. Et qu'ils écoutent Sex Machine pour la première fois. Ils doivent se dire « je crois qu'on a un truc pas mal. »
C'est pas si mal, c'est pas si mal.
« Je crois qu'on a un truc pas mal. » Et j'ai toujours ce fantasme-là, mais avec plein de musique. Tu vois, des trucs où t'as un truc magique comme ça où tu te dis « Waouh, c'est... » Et avec la pub, on a eu la chance avec 2 ou 3 campagnes d'avoir des trucs comme ça où on se dit waouh, le truc qui fait il brûle internet et puis c'est ça qui est génial avec le digital pour le coup.
Bien sûr, avant, ça s'enflamme complètement.
Tu faisais des bonnes pubs, tu le savais longtemps avant, longtemps après, tu vois que c'était bien. Là maintenant, tu sors la pub, tu la mets sur internet, 2 minutes après, si t'as 1000 likes, c'est que t'as fait un truc bien.
Et alors justement, c'est une question que je voulais te poser, c'est cette idée de se dire, tu crées quelque chose, toi t'y crois, c'est ton idée et tout, mais à quel moment tu sais que vraiment ça va être un méga carton, ou à l'inverse, qu'il faut y aller, ou à l'inverse, tu vois, tu sens pas le truc. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que, je sais pas, dans la réaction des gens, toi, ce que tu ressens au fond de toi, enfin, c'est quoi,
honnêtement,
tu vois?
Et c'est pas pour... ça reflète ce qu'on vient de se dire. Les 2 ou 3 campagnes qui ont vraiment brûlé Internet, les 4 campagnes qui ont vraiment brûlé Internet, comme nous on a fait, là, les premières qui me viennent, c'est Tipex, Milka, Mythique, et le truc qu'on a fait quand McDo a fait une campagne et qu'on a répondu avec Burger King.
Ouais,
il y en a
énorme.
D'autres, hein, tu vois, ou même Ikea, ou même DLC et tout. Mais ces 4-là, auxquels, tu vois, c'est des trucs où il y avait vraiment de la vibration. C'est des trucs où j'ai eu peur. J'ai eu peur.
T'as eu peur quand vous avez eu l'idée, toi, tu t'es dit, est-ce qu'on va trop loin?
C'est une peur, le mot n'est pas le bon. Mais c'est un truc
où
on te le raconte et tu fais « Oh waouh !» Tu sais, fais « Waouh, c'est quoi ce truc, quoi ?» Et il y a une sorte d'étincelle comme ça. Tu vois, tu dois avoir une mini étincelle alors moi je peux en parler parce que j'étais créatif. Et parfois t'as une étincelle comme ça, tu sais, d'ailleurs j'ai lu des bouquins assez passionnants sur les neuroscientifiques qui essayent de comprendre comment les idées naissent. Tu sais, ce fameux truc.
Ouais, bien sûr.
Des fois, les mecs me disent, mais alors, vous avez eu l'idée comment? J'en sais rien. Tu crois que je suis rentré dans mon cerveau? Tu vois, ça me fait toujours rire.
Ouais, c'est
d'abord,
clair.
Souvent, c'est pas moi qui ai eu l'idée, en plus. Mais, je crois que le tronc commun, c'est ça. C'est que, mais, je sais pas, je sais pas comment quand t'as créé ta boîte de bijouterie, c'est pas forcément de la pub, hein. C'est, je pense que le mec, la première fois qu'il a pensé à faire Uber, il s'est dit, waouh, là, je crois que je viens de tomber sur une idée. C'est comme les mecs qui créent des idées de boîtes ou de services. Il y a un moment, tu fais, ah ouais, là, je pense que j'ai trop. Il y a un truc qui doit te faire un peu flipper de dire, putain, je crois que c'est une super idée.
En fait,
t'as une peur de dire, est-ce que ça a déjà été fait?
Non, mais je vois très bien. Nous, tu vois, quand on a fait notre campagne, donc désolé, pas avec Buzzman, mais avec le chat rose que t'as peut-être vu.
Que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Sincèrement, cette campagne, je me rappelle très bien qu'une semaine avant le lancement dans le métro, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on arrête tout.
Ouais,
on est des
flippé.
Fous. J'ai eu le coup de flip dont tu parles. Et évidemment, la campagne a super bien marché, tu vois.
Ouais, et puis alors, votre truc à vous, en plus, il est assez marrant parce qu'il est assez compliqué à expliquer. C'est-à-dire, moi, par exemple, tu ne me parles pas du truc de quartier là en off pour m'expliquer d'où ça vient. Tu essaies de me dire pourquoi tu aimes bien ce truc.
Non, c'est juste mignon. C'est juste mignon.
C'est pas que mignon, il y a une sorte d'alchimie, tu sais pas pourquoi les couleurs, ce chat pourquoi il est rose, et puis il a une petite tête, on sait pas s'il est gentil ou s'il a un peu une tête de sorcière en même temps, tu sais, il est un peu. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il a une tête un peu inquiétante, mais en même temps il est tout mignon, t'as envie de lui faire des bisous, mais en même temps tu sais, et je comprends si c'est un truc par rapport à la panthère de quartier ou.
Il faut qu'il soit quand même un peu statutaire, tu vois, ce chat. Il faut qu'il y ait un peu de distance, mais en même temps qu'il soit super mignon. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de créer.
Ouais, mais c'est ça. C'est des trucs que t'arrives pas à expliquer. Hein, c'est dur. Hein.
Exactement.
Mais ouais, je dirais que le tronc commun, ça doit être ça. En fait, je pense que le truc qu'il faut dire aux gens, s'ils ont une idée et que ça les fait un peu peur, c'est que c'est très bon signe.
Ouais, il y a quelque chose.
Ouais. Si t'as une idée et que tu fais ouais, bon.
C'est good enough, quoi. Wow, ça va rien se passer. Bah, en tout cas, dans le milieu de la pub et du marketing, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est tellement difficile d'émerger.
Bah oui.
Que si c'est pas absolument radical, il vaut mieux prendre le risque d'en faire un peu trop que pas assez, parce que sinon, tu passes complètement inaperçu, quoi.
Mais surtout, je sais pas si les gens se rendent compte, mais sur Internet, les gens sont tellement talentueux. C'est-à-dire que nous, enfin, tu vois, moi, je regarde Internet, je suis bluffé, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Il se passe un événement. Et d'un coup, tu as des mecs qui font des vannes, mais qui sont tout autant rigolotes et spirituelles. Tu as des trucs qui sont à crever de rire. Les mecs font ça en 5 minutes. C'est-à-dire, notre compète à nous, elle est devenue super sérieuse.
Ah ouais.
Et moi, je dis à mes clients, enfin, si tu veux, on fait un truc moyen qui ne va pas se voir. Hein. Mais dans ce cas-là, garde ton argent et puis on va se faire une bonne bouffe. et puis voilà, mais moi, je suis un paysan du Lot-et-Garonne. Je pense que ça m'est resté un peu le bon sens... Tu sais, genre, t'as un truc génial, tu le fais. T'as pas un truc génial, en fait,
tu le fais pas,
et puis on fait autre chose avec. C'est pas facile, hein, parce que après, je comprends tout à l'heure ta question quand tu me dis comment tu le sais que c'est bien. Je sais pas. Je sais moi, et après, j'ai des gens aussi autour de moi.
T'as l'expérience.
Et quand t'as 5 personnes qui te disent, ou 10 personnes, où on se dit, putain, là, on a vraiment un truc fort.
Ouais, tu y crois, quoi.
Ouais, ça t'aide quand même à y croire plus.
Et juste pour terminer sur cette partie-là, après j'aimerais bien parler un petit peu de toi, puis j'ai des questions du public aussi, pour une fois. Je voulais te poser une question justement sur le fait d'avoir des idées. Tu me disais que tu avais lu un bouquin intéressant là à l'instant sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est créatif. Ouais. Mais une question que je me pose tout le temps, c'est est-ce qu'il y a une méthode quand même? Tu vois, on a un peu l'impression qu'il y a toujours ce stéréotype du créatif qui juste, il a une idée de génie, tu vois, qui lui tombe dessus un peu du jour au lendemain. Mais quand même, enfin, comme tu le dis, il n'y a quand même pas de secret. Des bonnes idées, des excellentes idées, vous en avez eu beaucoup chez Buzzman. Donc après, ok, vous avez les bonnes personnes. Mais est-ce que tu as quand même, c'est peut-être de la veille, c'est peut-être des brainstorms, je ne sais pas. Quel est un peu votre processus créatif? Comment, quand vous avez un brief, comment vous arrivez à sortir de terre un truc brillant à partir de ça?
Putain, qu'est-ce que c'est dur comme question. Alors, au-delà du fait que si je l'avais vraiment, je la donnerais à personne.
Oui, bon.
J'ai pas de mal à partager ça. Parce qu'en réalité, d'abord, il y a un vrai truc, il y a un truc qu'il faut pas déconner, c'est le taf. La vraie méthode, c'est le travail. On n'a jamais sorti une campagne à l'agence sans taffer comme des chiens. C'est-à-dire, nous, on a fait l'analyse aussi en se disant, tiens, si on trouvait une petite méthode...
Non, mais me doute qu'il n'y a pas de recette, mais...
Honnêtement, tu sais, on prend un brief. on réfléchit toujours, et là, c'est un truc pareil, ça a l'air débile, mais et c'est pas, on n'est pas les premiers à le dire. Philippe Michel le disait, Bill Bernbach le disait et tout. On se place toujours du côté de la personne à qui tu veux t'adresser. Ça a l'air très con, mais au lieu de parler de la boîte qui va faire le truc, tu parles à, on essaie de réfléchir sur ce qui va intéresser aux gens, ce qui va intéresser les gens. Tu prends Mythique. On peut dire Mythique, c'est la super application qui est hyper bien foutue, l'ergonomie est géniale, nanani, nanana. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'en plus, il y a Tinder qui arrive et qui fait que justement, Mythique, quand ils nous appellent, ils sont en danger à cause de toutes les apps qui arrivent, qui ont rendu. Tu vois, Mythique, ça a été la première boîte, la première start-up qui est devenue ringarde, en étant très cliché. Enfin, c'est la première, tu vois, c'est le premier truc digital qui est devenu. Qui s'est fait ringardiser ou ubériser, comme on dit aujourd'hui, par des nouveaux arrivants qui ont rendu le service encore plus fort et encore plus intéressant. Et en fait, quand on arrive sur ce sujet, évidemment, on peut se mettre en mode on va parler de la boîte, comment on a réfléchi à faire une bonne app, nanana. Au final, nous, on dit toutes les apps, en fait, il y en a qui sont mieux, il y en a. Le vrai truc qui est important, c'est finalement les gens, ils veulent refaire des rencontres amoureuses, sexuelles, même de l'amitié. Des fois, il y a des gens, tu sais, ils ont envie d'avoir des amis.
Ouais,
de...
ça,
il y a des histoires qui sont assez géniales, hein, de gens qui sont rencontrés sur des services de dating et qui sont devenus des amis. Et en fait, nous, on est arrivé avec ce truc de l'imperfection. De dire, quand tu arrives sur un site, déjà, il y a un truc, c'est que t'es pas en confiance. Ouais. Déjà, par définition, t'es célibataire, donc t'es quand même un peu un loser. Non, mais tu vois, ça part de
t'as un peu honte, en plus, d'être sur un site internet pour choper quelqu'un.
T'as honte, t'es un peu loser, parce que bon, t'es quand même tout seul comme un rat.
Ouais.
Donc déjà, t'arrives, t'es quand même déjà blessé, quoi. Et du coup, on se dit, ben, en fait, au lieu de dire aux gens, nous, on est super et on va vous faire un truc génial, on dit, en fait, vous êtes pas très bien, mais en fait, on va vous dire un truc, c'est que tous les gens qui sont sur notre site, ils sont comme vous. En fait, ils sont tous un peu losers. Ils sont tous, mais
vous n'êtes pas seuls.
Losers, je dis bien entre guillemets. Ils sont seuls. Ils sont seuls. Ils n'ont pas de mec. Ils ont séparé. Nanana. Ouais. Donc en fait, déjà, on part tous à égalité. Et en plus, il y a un autre truc dans lequel on a égalité, c'est qu'on n'est tous pas parfaits. Donc on est tous imparfaits. Et quand on dit si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous, là, on bute tout le monde parce qu'en fait, tout le monde est d'accord avec ça. Et d'un coup, tu fais oh, « Ah, c'est cool, je suis pas un loser, en fait, tout le monde est comme moi. » Et d'un coup, bah, tu libères, tu rends le pouvoir aux gens. Et d'un coup, tu es gros, tu pues de la bouche, tu as un œil en moins, tu es un peu chauve, tu es trop grande, tu as des trop grands pieds. Mais en fait, c'est pas très grave. Parce qu'en réalité, même moi, je suis même allé plus loin. Je me rappelle le jour où j'ai raconté ça aux clients. Je dis « En fait, souvent, tu tombes amoureux d'un défaut ne supporterais pas chez quelqu'un d'autre. En réalité, si tu réfléchis, moi j'ai fait ma propre analyse, je suis tombé amoureux de femmes qui avaient des défauts et je me suis dit en fait je suis vraiment amoureux de ces filles parce que c'est des choses que je ne supporterais pas chez une autre. Et quand tu dis des choses aussi simples que ça, alors après ça se processe, hein,
bien sûr, qu'il faut trouver la bonne phrase et...
non mais d'arriver à ce truc là, tu as l'impression que ça a demandé du travail, on a bossé jour et nuit sur ce truc. Et après, c'est de la sincérité, c'est de l'empathie, parce que là, pour le coup, on est en pleine empathie.
Oui, bien sûr. Donc, en fait, pour être créatif, je pense que tu as raison, l'empathie et le fait de se mettre dans
la botte des gens, en fait. Il faut se mettre dans la botte des gens, pas leur mentir. Je te dis ça aujourd'hui, en 2018, parce que les gens, tu vois, il y a une époque, on faisait décoller des voitures d'un porte-avions, c'était cool parce que c'était l'époque du spectacle, il y avait moins de concurrence et que les gens, ils avaient envie plus de rêver. Aujourd'hui, les gens, ils savent que de toute façon, quand tu fais de la pub, ils ont compris le marketing. C'est bonjour, je te parle de ce produit, c'est pour te le fourguer. Donc déjà, on est à égalité. Ouais. Donc déjà, on se dit ça pour pas qu'il y ait un truc où les gens, on leur dit, en fait, on va essayer de te mentir. Non, on leur dit des trucs vrais.
Ouais.
Déjà, quand tu fais ça, t'élimines un paquet de pubs. Parce qu'il y a un paquet de pubs qui prennent les gens pour des cons et qui essayent encore de leur vendre un truc en essayant de leur vendre autre chose que ce qu'ils font réellement. Déjà, arriver à cette conclusion-là, déjà, ça t'enlève un paquet de trucs que tu ne peux pas faire. Et après, il faut trouver des idées qui soient... nous, on part du principe qu'on essaie de trouver des idées universelles. Tu veux, en fait, moi, je dis souvent, fais une pub dont ta grand-mère serait fière. Tu vois ? que ta grand-mère elle voit ça à la télé ou sur internet ou sur un PowerPoint viral qu'il y avait à une époque et qu'elle se dise waouh mon petit-fils, et tu sais qu'elle en parle à,
ouais,
elle en parle autour d'elle à ses copines de bridge et de tu vois,
j'imagine la scène.
Mais tu vois, non mais c'est vrai, c'est ça le truc.
Ouais, non mais
c'est de dire ouais mon petit-fils il a fait ça. Tu vois, Swen, quand elle fait son film sur DLC, et d'ailleurs, j'espère qu'elle me répondra quand elle écoutera ça. Je sais pas ce que disent ses parents, mais forcément, ça doit les bousculer. Mmh. T'imagines, elle parle de la mort de son père. Enfin, le film, pardon, il parle de la mort d'un père et tout ça. Tes parents, tu vois ça,
ça les touche forcément.
Ah, ça doit être touché de fou,
ouais,
quoi.
C'est sûr.
Et d'ailleurs, moi, quand mes sœurs elles ont vu le film, elles m'ont dit, mais t'es malade de nous faire chialer comme ça? Tu vois, et c'était le meilleur compliment que j'ai jamais eu.
Ouais, bien sûr.
C'est même pas, je pense que quand le client me dit, ouais, on a fait plein de ventes, je suis super content. Mmh. Mais en vrai, le fait que mes sœurs me disent, mais t'es un malade de nous faire chialer sur, en plus, c'est des dessins animés, tu vois, des fois, c'est vrai, des fois, t'as les boules de chialer sur des dessins
c'est
animés.
Clair. Bah, écoute, très belle transition parce que je voulais parler un petit peu plus de toi, avant Buzzman, et donc de ta vie, notamment de ton enfance.
Ouais.
Une question que j'aime assez poser, c'est, donc tu as dit que tu étais né, alors tu dis paysan, bon je sais pas, mais en tout cas tu as dit que
tu étais Lot-et-Garonne,
ça je savais. Et on n'imaginerait pas un président de Buzzman, comme tu dis, paysan du Lot-et-Garonne, mais comme quoi je trouve ça assez cool.
Justement.
Est-ce que tu peux me raconter, du coup, justement, c'était comment ton enfance et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Enfin, en gros, c'était qui le petit Georges, tu vois, quand tu avais 8-10 ans, t'étais extraverti?
Le petit Georges, il était en short et tennis et je faisais que jouer au foot.
Ouais.
En fait, moi, je jouais au foot tout le temps. Voilà, je voulais être joueur professionnel, je voulais être pelé.
Pas mal.
Je voulais être pelé. Écoute, j'ai une histoire un peu particulière. Toutes les conditions étaient réunies pour que j'ai une enfance malheureuse. Pour faire simple. Je suis fils d'Arki. J'ai vécu dans un camp de réfugiés où il y avait le couvre-feu encore jusqu'en 77. Donc j'ai vécu dans des conditions assez dures, honnêtement. On n'a pas toujours mangé à notre faim. On n'a pas toujours... tu vois, c'était assez dur, tu vois. Pour moi, un peu moins, d'ailleurs, parce que mes frères et sœurs, ils sont arrivés en 62. Eux, ils ont vraiment vécu des trucs dans des camps qui étaient vraiment durs. Moi, j'étais dans un camp de réfugiés, mais à la limite, moi, j'étais pas dans des tentes. Eux, ils ont vraiment vécu, tu sais, quand tu vois les images avec les réfugiés, tout, voilà, moi, si tu veux voir d'où j'arrive, donc,
T'étais avant la
guerre, mes parents étaient dans les montagnes kabyles. Donc, on était très heureux. On avait des oliviers, c'était de l'huile d'olive. Enfin, tu vois, des paysans avec des moutons. Et après, quand on arrive en France, tu vois, les Harkis, c'était un peu compliqué, si tu veux.
C'était en quelle année, du coup, vous êtes arrivé?
62.
62, d'accord.
Pour faire simple, t'es le traître quand t'es algérien et t'es le bougnoul quand t'es du côté des Français. Donc, assez dur. Enfin, encore une fois, tout était fait pour que ça soit pas rigolo. Mais j'ai le souvenir d'une enfance tellement heureuse. Vraiment. Je pense qu'il y a un partage entre une cellule familiale qui était très, très positive, très heureuse. Tu vois, beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup, tu vois, notre maman notamment qui était une personne assez dingue parce qu'elle a élevé 7 enfants toute seule et qu'elle était hyper souriante, elle devait aller travailler dans les champs, enfin tu vois, elle a vraiment morflé.
Ouais.
Et voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a donné aussi cette patate que je peux avoir aujourd'hui. Mais
toi, t'étais le petit dernier de la
famille. Moi, j'étais le petit dernier, moi. D'accord. Moi, j'étais le dernier des 7 enfants. Et en fait, si tu veux, grâce au sport, il s'est passé un truc assez magique. C'est que, en fait, quand t'es bon au foot, et c'était mon cas, alors moi, j'étais bon à l'école, je foutais rien. Donc, comme je te disais, je suis un feignant, donc j'ai cultivé ça depuis que j'étais petit. Et j'étais très bon au foot. Mais vraiment, genre, j'étais.
Mais t'aimais ça pour le coup?
Ah, mais c'était. Je pensais qu'à ça.
D'accord.
Ma vie,
c'est la passion, quoi.
Aller à l'école, pas faire mes devoirs et aller jouer au foot. Et en fait, si tu veux, quand tu joues au foot, en fait, quand t'es bon, il y a un truc qui s'arrête tout de suite, c'est le racisme. C'est-à-dire qu'un mec qui est bon au foot, qu'il soit black, chinois, rebeu, on s'en branle, en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai vécu ces dernières années. 98 et tout, pour moi c'était l'apogée de ça. Je me suis dit, mais putain,
non, mais c'est
ça
vrai.
En fait. Tu sais, en fait, tu t'en fous que le mec soit black, qu'il soit rebeu et nain. Et les mecs, une fois que t'as gagné, tu vois, quand t'as tout le monde qui sont sur les Champs-Élysées, il n'y a pas des mecs qui disent Ah ouais, non, excuse-moi, moi je vais pas sur les Champs parce qu'il y a trop de blacks. Oui, il y en a, mais on les connaît et d'ailleurs, on les porte pas forcément dans notre cœur. Il y a ce truc-là qui est tellement rassembleur. Et la joie que tu peux avoir quand tu joues au foot et que tu marques des buts, c'est une joie, c'est insensé. Enfin, tu vois, tu pars en. Enfin, tu vois, moi, j'ai le souvenir de moi marquer des buts avec des mecs qui me sautent dessus et c'est des joies qui te transportent, qui deviennent des moments qui effacent tout le reste, qui effacent le fait que tu sois pas forcément riche, que t'es pas forcément les freins que tu dois acheter. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. C'est marrant, je sais plus ce que je sortais comme connerie la dernière fois sur. On parle, parce que moi j'aime bien la bouffe aujourd'hui. Mais j'aime bien la bouffe, pas forcément. Tu sais, les gens, ils imaginent toujours que les gens, t'es président d'agence, donc tu peux manger que dans des grands restaurants, ce qui est effectivement, qui peut être mon cas. Mais en réalité, ces derniers temps, je me dis, ah tiens, j'adore genre, du chou brûlé avec une crème, tu vois, des légumes tout simples et tout. Et en fait, je me disais, c'est génial d'être resté, enfin, je suis content de ça, c'est d'être resté. Je pense que si j'avais pas eu cette enfance, peut-être que je serais.
D'avoir des goûts assez simples, quoi.
Ouais, tu vois, de péter un peu les plombs et. Tu vois, moi, j'ai une vie assez. Finalement. Alors, moi, je suis un. Tu vois, quand les gens me demandent si je suis heureux, je suis pas heureux. Enfin, tu vois, j'ai mille fois.
Ce que tu penses.
Ce que j'avais imaginé en rêve avoir. Tu vois, donc, si tu veux, j'ai dépassé le fait d'être heureux.
Non, mais t'arrives à t'en rendre compte parce qu'il y a des gens qui continuent à se fixer tellement tout le temps des objectifs, tu vois, qu'ils arrivent pas tellement à apprécier. Enfin, ça peut être un peu mon cas, je pense que c'est pas facile.
Moi j'ai une qualité que j'adore avoir, c'est que je suis très ancré dans ce que je vis. C'est-à-dire que je vis exactement, enfin, j'ai une grosse capacité de taf, par exemple, je peux beaucoup travailler, mais je peux être aussi très contemplatif. Donc dans les moments, c'est un peu comme au foot, t'as les temps forts et t'as les temps faibles. Donc dans les temps forts, je peux bosser comme un chien, être une machine, tu vois, et en même temps quand je m'arrête, par contre je sais m'arrêter. Je m'arrête et je peux rien foutre. Et en fait quand tu t'arrêtes, en fait tu fais pas rien, tu sédimentes.
Bien sûr.
Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé Buzzman, hein. C'est après une année et demie sabbatique, j'aurais pas fait mon année sabbatique, franchement je pense pas que j'aurais créé l'agence. Et je pense que ouais ça c'est un des conseils que je donne souvent aux gens de l'agence, je leur dis profitez des moments qui sont agréables. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais de profiter des victoires et de profiter des défaites aussi. Ouais. Il y a un truc qui est génial que je raconte souvent à l'agence. Tu sais, quand c'est une anecdote moi qui m'avait vachement ému, ça m'avait même mis les larmes aux yeux parce que j'imagine tellement la scène. Tu sais, quand Deschamps, il monte en 98 pour aller chercher la Coupe du Monde, il y a Platini qui le chope pendant qu'il est en train de marcher comme ça.
Ouais.
Il le chope comme ça et lui dit « Prends ton temps.
Énorme. »
Et je trouve ça tellement génial parce que ça va vite, en fait.
Ouais, bah oui.
Tu sais, c'est comme quand tu fais ton anniversaire. Tu as ce truc-là, tu sais, tu fais ton anniversaire, tu invites trop de gens.
Tu es content, tu prépares.
Et le lendemain matin, tu te lèves et tu fais «
C'est déjà fini. »
J'ai vu personne, c'est déjà fini. Du coup, moi, maintenant, je fais autre chose. Je fais mon anniversaire avec très peu de gens.
D'accord.
Et sur plusieurs jours.
Ouais, j'allais dire sur plusieurs jours, ça peut marcher.
Il faut le faire
aussi.
Sur 48 heures.
Prendre le temps, ça marche. Et si on revient un peu à l'enfance et au foot, du coup, en fait, donc tu ça marche assez bien parce que j'ai lu du coup que tu es carrément rentré. Alors, est-ce que c'était en équipe de France ou
j'étais présélectionné en équipe de France,
Et tu as été quand même vraiment loin dans le process.
Ouais, je suis allé assez loin et en fait, juste avant les présélections, avant de faire mon stage de sélection, j'ai chopé de l'asthme et donc du coup, mais du jour au lendemain, donc je pouvais plus courir.
C'est dingue.
Donc, si tu veux, c'est comme si le destin m'avait dit, ben voilà, de 5 ans à 15 ans ou 14 ans, tu vas aimer le foot et puis après, ben, tu ne pourras plus.
Mais alors, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu découvres que tu as de l'asthme et qu'en gros, ça fait 15 ans que tu bosses sur un truc qui est ta passion et qu'en gros, tu ne vas pas...
Je prends cher, là.
Bah, tu prends cher.
Je suis tout seul, je me rappelle très bien de ce moment. Je suis dans un centre de formation à Soulac, puisque donc, je suis en sélection du Sud-Ouest.
Oui, c'est près de Bordeaux.
Ouais, sous la quoi. Et là, en fait, le matin, on va courir et je sens que j'ai du mal à respirer, ça siffle et tout. Mais c'est arrivé vraiment en l'espace de 48 heures, 72 heures. Et là, je peux plus courir. Je peux plus courir. Et donc, pendant que les autres vont courir et s'entraîner, moi, je reste là tout seul. Et là, je suis tout seul dans le, dans, dans ma piole, là, je sais que, et je le sais. Là, ma vie vient de basculer. Je sais que je ferai plus ça de ma vie. Voilà. Et c'est dur. C'est dur. J'ai passé un ou deux ans où j'ai essayé de. J'ai fait le dos rond et tout, mais ouais, c'était dur. C'était dur parce que j'adorais ça. Alors après, hormonalement, il s'est passé un truc, c'est que c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Donc, si tu veux, la passion du foot.
C'est transvasé en passion.
La passion du foot, tu vois, j'avais 15 ans, donc tu commences un peu à avoir tes premiers émois amoureux. Donc, tu vois, j'avais peut-être une petite amoureuse.
D'accord. Qui t'a aidé un peu à t'en
sortir. Ouais, qui m'a aidé un peu. Et je pense que, voilà, on va dire que la nature a bien fait les choses, quoi.
Ça marche. Et du coup, pour que je comprenne qu'est-ce qui se passe quand tu as ces deux années un peu dures où, en gros, tu te poses peut-être des questions sur ce que tu vas faire. Comment tu prends en gros à ce moment-là, est-ce que tu te dis c'est bon, je vais faire donc une école, j'ai vu que tu as fait une école de pub. En gros, comment tu passes de carrière dans le foot à carrière de pub? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Écoute, c'est toujours compliqué de se rappeler de. Je vois juste des flashs. Pendant ces deux ans, franchement, je fais le dos rond. Je passe beaucoup de temps à chercher d'où vient cet asthme. Donc, je fais beaucoup de docteurs. Tu vois, je fais des trucs anti-allergiques et tout. Donc, je suis un peu dans un mode médical, un peu de grand sportif, parce que moi, je veux, même si je sais que quelque chose s'est arrêté, j'ai envie de reprendre.
Bien sûr.
Je me dis, je veux.
T'as pas envie de lâcher le truc.
J'ai pas envie de lâcher. Bah non.
Forcément.
Bah, tu vois, c'est ma vie, quoi. Et en fait, au bout de deux ans, je crois que je suis blasé, quoi. Je me dis, putain, j'y arriverai plus. Et puis, c'est quand même l'âge à 17 ans où soit tu fais des études, soit tu refais du sport. Mais pour refaire du sport, je me disais, putain, j'ai manqué le train. Le train est vraiment parti sans moi. Et je me sens pas le truc. Et franchement, je crois que le souvenir que j'ai par rapport à la pub, vers 16, 17, 18 ans, je regardais des pubs à la télé et tout. Et en fait, je me disais, putain, c'est génial ce taf. J'adorais, en fait. Je trouvais que c'était comme des petits sketchs que je trouvais cool. Et sans avoir aucune personne autour de moi qui faisait de la pub, je me suis dit, tiens, ça doit être cool de faire ce métier. Ouais.
Et donc, tu rentres en école de pub et ensuite...
En fait, je vais voir un mec qui fait de l'orientation et tout. Ouais. Et moi, je faisais un bac C à l'époque parce que j'étais assez bon en maths et en physique, même si je foutais rien. Et ce qui rendait dingue mon prof de maths, qui aurait adoré que je finisse faire un doctorat de neuro, je sais pas quoi. Et moi, je lui dis, alors déjà, moi, en blouse blanche, toute ma vie, tu m'oublies. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et j'étais allé voir le conseiller d'orientation qui m'a dit, non, mais vous pouvez pas faire de la pub. La pub, c'est pour... C'est un peu pour les mecs, c'est pas pour les rebuts de la société, mais c'est pour les mecs qui savent pas quoi faire.
En tout cas, pas faire des maths, quoi.
Il dit, voilà, vous allez faire un bac C, vous allez faire normal sup, une prépa HEC, et puis vous allez me faire le plaisir de... Et je dis, ah non, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Moi, j'ai envie de faire de la pub, quoi. Et je crois que je savais déjà que je voulais être créatif, en plus. Donc après, j'ai fait des études. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, je me suis un peu renseigné et tout. Je me suis dit, OK, donc il faut que je sois bon en marketing et en économie. Parce qu'en fait, tu peux pas être un bon créatif si t'es pas un bon commercial, pour faire simple. Et voilà, du coup, après, j'ai fait un master à la fin de pub et de communication. Mais là, c'est parti. C'était genre, une fois, à partir du moment où, après mon bac, j'ai décidé de faire de la pub, j'étais en obsession. Tu vois, c'était genre, je vais faire de la pub et il n'y a rien d'autre. Qui m'empêchera de faire de la pub.
Et alors j'ai vu, donc après, tu as pas mal d'expérience dans diverses boîtes. Ma question, c'est donc qu'est-ce qui se passe et comment tu décides, donc il y a cette année sabbatique, mais comment tu décides de passer de l'autre côté de la barrière et d'arrêter d'être employé en plus, tu as bossé dans des boîtes prestigieuses, style BETC, etc. Et tu crées ta propre boîte. Enfin, c'est quand même.
Je suis obligé de la raconter un peu longuement parce que je l'ai raconté il y a pas longtemps.
On a le temps. Enfin, moi,
j'avais jamais eu l'occasion de la raconter, donc c'était au Napoléon et dont le thème était la peur et j'avais été gentiment invité par Olivier Mondaire et j'ai raconté pourquoi et j'avoue que ça m'a fait plaisir parce que les gens étaient vraiment morts de rire parce qu'en fait c'est vraiment une erreur en fait. En vrai, j'ai vraiment créé Buzzman par erreur. Non mais c'est important de le dire parce que les gens, tu sais, des fois quand moi il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais j'aimerais bien monter ma boîte de ça, ouais. Je trouve ça génial, tu vois, des fois t'as des gens qui me disent ouais j'ai envie de rénover des meubles, je trouve ça génial, moi j'adore rénover des meubles et je suis nul à le faire, donc je dis mais vas-y fais-le, comme ça je t'achèterai des trucs. Et en fait moi le pour aller vraiment vite, je me suis fait virer de Publicis et j'ai vendu ma maison que j'avais rénovée et j'avais fait une très grosse plus-value.
D'accord.
Donc, si tu veux, pour la première fois de ma vie, j'étais riche.
Tu avais du cash.
J'avais de l'argent, mais je n'avais pas des millions. Mais pour moi, à mon niveau, si tu veux, je me suis dit, oh, ah, c'est énorme, j'ai beaucoup d'argent, quoi. Donc, comme je suis un peu paysan, il y a une partie de l'argent.
C'est pas indiscret, tu peux te dire à peu près.
Ouais,
il n'y
a aucune indiscrétion.
Juste pour que les gens se rendent compte.
J'avais, on va dire un truc comme 500 ou 600 000 euros.
Ouais, donc quand même.
Ce qui est une belle somme. Ouais, ouais. Mais attends, avec 600 000 euros, j'avais plus de maison.
C'est ça.
Voilà, donc il fallait quand même que j'en rachète. Il fallait que j'en rachète une. Ouais. Donc en vrai, pendant quelques jours, j'ai été très riche. Et au bout de 3 mois, il me restait plus que 300 000 parce que j'ai acheté un truc qui coûtait 300 000 euros à l'époque. Donc non, moi, j'ai pas du tout de difficulté à parler d'argent. Je trouve même que c'est un peu débile de ne pas en parler parce que ça permet aussi aux gens. Tu vois, dans mon cas présent, aux gens de démystifier un peu tout ça, parce qu'ils peuvent se dire, attends, on parle de, le mec est riche, ça veut dire qu'il avait des millions.
C'est ça, moi je trouve que c'est plutôt valorisant, tu vois, de se dire que t'avais pas 3 millions non plus.
Et puis moi, c'est aussi pour aider les gens à se dire, bah oui, alors tout le monde n'a pas 300 000 balles, mais après, pour ces 300 000 balles, je me suis fait virer comme une boîte sans aucune autre raison. Je sais pas si aujourd'hui il y a prescription de le dire, bon, vous voulez pas les gens de Publicis. Et la vente de ma maison, c'est une baraque que j'ai achetée, une ancienne menuiserie que j'ai entièrement retapée, qui m'a valu un enfer. J'ai découvert l'enfer des travaux dans lequel je suis encore aujourd'hui, parce que c'est ma passion de rénover des endroits. Et donc, tu vois, je l'ai super bien vendu, mais je l'ai mérité. Enfin, tu vois, c'est pas du blé. Je suis pas devenu riche comme ça du jour au lendemain. On m'a pas filé du blé. Quoi. Ouais. C'est un truc méritoire. Et donc, pendant un an et demi, j'ai fait la fête. Je suis sorti, j'ai voyagé et tout. Sauf qu'en fait, j'avais pas fait bien mes comptes, ce que je ne faisais jamais à l'époque. Alors aujourd'hui, je l'ai fait parce qu'il y a une app. Mais j'ai cette particularité de ne jamais ouvrir. Mais autant aujourd'hui où j'ai plus d'argent que quand j'en avais pas, j'ai jamais ouvert mes relevés de compte.
D'accord.
Voilà, c'est une sorte de phobie administrative, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que je recevais beaucoup de coups de fil de mon banquier parce qu'il me disait que j'étais à découvert, il fallait qu'il me voie. Bon, je le zappais un peu, je préférais être en vacances et faire la fête avec mes potes et voilà. Et puis un jour, il m'a dit que j'avais 63 000 euros de découvert.
Merde.
Donc là, je me suis dit, putain, ouais, là. Et là, pour la première fois de ma vie, un problème d'argent m'a empêché de dormir. Parce que moi, ça ne m'a jamais empêché de dormir. Et d'ailleurs, tu vois, souvent, les gens, ils disent, ouais, un entrepreneur, il ne dort pas parce qu'il a les URSSAF. Alors moi, zéro. Mais pas parce que je ne m'y intéresse pas, c'est parce que ça ne... Pas parce que je n'ai pas peur, c'est parce que je suis insouciant. En fait, je préfère ne pas...
ne pas y penser. Tu ne regardes pas ton compte, donc en tout cas, tu ne sais pas.
J'ai payé un mec dont je tire mon chapeau, qui s'appelle Olivier Amsalem, qui est mon directeur financier, qui me supporte depuis 10 ans aujourd'hui, et qui est un de mes associés, qui a pris toute cette partie de merde.
Savoir s'entourer, messieurs, dames.
Ouais, total. Donc, dont je ne veux pas m'occuper. Et en fait, un jour, je me suis retrouvé dans la merde, en fait. J'étais en banqueroute, ce qui s'appelle en banqueroute. Et en fait, je suis passé du mec riche à devoir taper de la thune à ma famille et à mes potes, à bouffer du thon sauce catalane et à le partager en deux. Non, mais je te jure, j'ai encore souvenir.
On sent que le thon sauce catalane, c'est du véridique.
Thon sauce catalane coupé en deux que tu bouffais en deux jours et tout. Et là, un jour, je me suis dit, putain, mais je suis vraiment dans la merde, quoi. Et en plus, l'ironie sûre, c'est que je venais d'acheter un truc que j'avais rénové, qui était un truc hyper luxueux. Ouais. Et je me disais, mais attends, c'est pas possible, je peux pas vivre là-dedans et bouffer. Donc, il faut que je fasse un truc. J'avais le choix en deux choses. Vendre ma maison, qui était un peu l'aboutissement de ces 12 ans de boulot que j'adore et dans lequel je vis toujours parce que je suis attaché affectivement à cet endroit et qui est un paradis. En fait, moi, je suis vraiment heureux d'habiter dans cette maison. Ou retrouver un travail. Moi, j'étais bien lancé, quoi. Un an et demi d'un congé sabbatique, je pouvais encore tenir 2 ou 3 ans, tu vois. Et un jour, j'avais cette idée de faire Buzzman qui avait mûri, tu vois. C'est pour ça, en fait, quand on dit on fait rien, en fait, on fait
pas
rien.
Oui, c'est pas vrai, on sédimente.
En fait, tu sédimentes, quoi. Et un jour, je me dis, mais j'ai une idée. Un matin, je me lève et je me dis, Georges, t'es un génie. T'es un génie, quoi. Je prends mon vélo, parce qu'à l'époque, j'avais acheté un vélo parce que je flânais, donc j'ai découvert Paris. C'était génial, tu vois. Et je prends mon vélo, j'arrive à la banque et je vais voir mon banquier. Je lui dis, j'ai une idée. Elle me dit, bah, allez-y. Elle me dit, voilà, c'est très simple. je vais créer une boîte et tous les mois, je vais me verser un gros salaire et avec ce gros salaire, vous allez me faire un crédit puisque j'aurai une grosse capacité d'endettement. Ok ? Et donc là, elle me regarde comme ça et elle me dit, mais cet argent-là, c'est...
Ce salaire, d'où vient-il ?
Ce salaire. Et puis en plus, c'est un salaire, je m'étais dit 10 000 euros.
Bien sûr.
Je me suis dit, tiens, je vais me faire un chèque de 10 000 euros tous les mois. Comme ça, le crédit, je le rembourserai en 6 mois. Ouais. Et donc, elle me dit, c'est super.
Pratique.
On n'a qu'à faire ça. Elle me dit juste une question. L'argent, là, les 10 000 euros, ça sera de l'argent qui arrivera d'où ? Vous aurez des clients ? Ah ben non, j'ai pas de clients, mais il suffit que je fasse un chèque.
Ouais.
Je fais un chèque de 10 000 euros à mon ordre. Elle me dit, oui, ça s'appelle un chèque en bois. Et là, en fait, je suis passé du génie à l'enfant. Et je me suis dit, comment j'ai pu imaginer ? Et là, je me suis dit, putain, je suis dans la merde. Elle me dit, vous avez pas d'autres ? Elle me dit, ça, c'était une blague, mais la vraie idée, c'est quoi ? Je dis, non, je vous jure, c'était ça. Elle me dit, non, c'est pas une idée, ça. Et puis, j'ai appelé une ou deux personnes, et notamment, j'ai appelé Patrice Haddad, que je tiens à remercier encore aujourd'hui. Et lui, il m'a dit, bah, vas-y, viens, on le fait, et on va faire Buzzman. Et donc, ça a été mon premier associé qui a été obligé de sortir de l'actionnariat pour des histoires de conflits d'intérêts. Mmh. Et voilà, et Buzzman s'est créé là-dessus. En fait, Buzzman s'est créé énorme. Parce qu'il fallait que je rembourse un prêt. Mmh. Si je dois faire le résumé.
En une ligne, quoi, c'est ça.
En une ligne, j'ai vraiment créé Buzzman parce qu'il a fallu que je rembourse un prêt.
J'adore.
Et franchement, je l'ai vraiment fait pendant un an. En n'ayant que ça en tête.
Ouais, tu t'avais pas forcément.
Il n'y a rien à branler de succès, de faire des campagnes. Enfin, si, je voulais faire des bonnes campagnes, parce que je voulais quand même faire un truc bien, mais aucune vision. Tiens, les gens, ils pensent que j'étais visionnaire et tout, zéro.
Et alors, à quel moment, pour terminer là-dessus, à quel moment tu sens que ça a décollé ? À quel moment tu passes de je rembourse mon prêt et il faut juste que je me paye un salaire à non seulement ça va être une vraie boîte, mais ça va être une agence différente, tu vois, avec une vision, une culture différente.
Ça allait hyper vite. Au bout d'un an, en fait, on avait fait deux ou trois trucs. Et en fait, je vois bien que les trucs qu'on fait, personne n'est fait. Mm. Et qu'en fait, pendant cette année et demie-là où j'ai a priori rien fait, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Mm. J'ai bossé sur Internet, j'ai regardé les trucs, j'ai fait de la veille. J'ai fait le truc que t'as pas le temps de faire quand tu bosses, en fait. Quand tu bosses, t'es dans ton match et tu regardes pas ce qui se passe à côté. Donc, je me suis enrichi de plein de choses différentes et pas que dans la pub, dans plein de trucs. Et en réalité, assez rapidement, je me suis dit, tiens, j'ai un truc qui est différent.
Faut pas que je lâche, quoi.
Ouais, et surtout, j'étais en feu. J'étais dans mon élément, tu vois, j'étais en feu. Je marchais sur l'eau, quoi. Et je me suis dit, il y a un truc là-dedans, ça va prendre du temps. Je pensais que ça prendrait 3 ans. Ça a pris quand même 6 ans en vrai pour que ça commence vraiment à bastonner.
Ouais. C'est toujours plus long que ce qu'on pense. Hein.
C'est toujours plus long. Et puis surtout, dans la pub, les gens dans la pub sont des éponges. Donc je pensais que très rapidement, les concurrents, les grands groupes, ils feraient la même chose que moi, mais plus rapidement. Ça a pris plus de temps aussi. Mais du coup, aujourd'hui, c'était super d'avoir ces grands groupes publicitaires.
Ouais, qui commencent à venir te voir.
Ouais, et surtout qui faisaient un peu comme moi. Donc, moi, ça confirmait mon modèle. Mm-hmm. Plus je chantais ces gens faire des trucs un peu comme Buzzman, et plus je me disais, si eux, ils font ça, c'est qu'ils ont compris que c'était bon business. Donc, ça a été dur. J'ai vraiment j'ai serré les dents parce que, tu vois, au début, c'est un peu, tu sais, c'était une MJC, l'agence, quoi. Et puis moi, je suis un doux rêveur. Je suis pas, tu vois, je suis pas.
T'as compris que t'es pas un financier.
Je suis pas un financier. Alors, je suis bon en ego parce que je suis bon en ego parce que je n'ai aucune notion de valeur.
D'accord.
Donc quelqu'un me dit que ça coûte combien, je peux dire ça coûte 100 000 euros. Il me dit assez cher quand même. Ah bon ? Bon, bah, combien vous dites ? 5 000. Ah non, il faut pas déconner. non, mais je suis je laisse ça à d'autres. Il y a des gens à l'agence qui sont meilleurs que moi à ça, Mais ouais, en 3-4 ans, là, on savait qu'on avait fait un truc, tu vois, quand on avait fait Chabal. Et puis après, il y a eu Tipex, quoi. Tipex,
ça a
vraiment changé le game. Ça a changé le game.
Une pub que je vous invite à regarder, on la trouve toujours ou pas ?
Non, tu peux trouver le case study sur notre site, buzzman.tv.
Je me rappelle, je l'avais vu à l'époque et tu vois, ça m'avait comme beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. C'était tellement différent de ce qu'on voyait.
Ouais, c'était un game changer. Ça a été un cas d'école mondial. Ça a été connu dans le monde entier et c'est vrai qu'on s'est fait connaître avec ce truc. Ça a été euh, il y a eu vraiment un blues, il y a une sorte de baby blues après Tipex, parce que tu après tu dis putain, une fois que j'ai fait ce truc là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis les gens ils te regardent plus, donc et c'est en réalité il y a rien de mieux quand les gens te regardent et que tu dis je peux pas décevoir les gens. Un, tu peux pas les décevoir.
Tu penses que ça te tire vers le haut ou au contraire ça te met tellement la pression parce qu'il y a des gens qui le vivent mal, hein. Toi t'aimes bien.
Ah moi j'adore qu'on m'attende au tournant. J'adore qu'on m'attende au tournant. Bah il y a rien de meilleur fuel quoi. Et tu veux que je te dise, parce que moi j'ai aussi ce credo là, c'est si on y arrive c'est super, mais si on n'y arrive pas on s'en fout.
Ouais.
Tu vois, il y a pas aussi le truc de se dire si on n'y arrive pas c'est la fin du monde, je m'en fous. Tu sais, je dis souvent à mes créatifs, parce que quand t'es créatif, tu te mets quand même bien la pression, surtout quand t'es dans une agence comme la nôtre, où t'as quand même eu des prédécesseurs qui ont fait des grandes campagnes, tu te dois de faire des trucs qui sont de ce niveau. Et des fois, parfois, quand tu regardes un joueur de tennis, par exemple, il y a des gens qui perdent leurs moyens.
Ouais, c'est ça. Ils vont gagner. Face à la pression, quoi.
Et la pression, et ils foutent la balle à côté, tu vois. Et en fait, il faut les détendre par rapport à ça. C'est, moi, je leur dis, si on doit avoir une idée, pour avoir une idée, on va crever. Mais par contre, si on l'a pas, on va pas mourir.
Ouais. Mais c'est hyper important parce que je pense que les gens se mettent énormément de pression. Je le vois vachement dans le milieu sportif, mais en fait, c'est aussi le cas dans le milieu entrepreneurial ou professionnel.
C'est la même chose.
C'est qu'en fait, c'est un subtil équilibre entre il faut aimer le challenge, se mettre la pression, et en même temps, il faut savoir que si jamais ça se passe pas, il faut être détente.
Bah ouais. Et moi, j'ai vu Mbappé, on a fait une campagne avec lui il y a quelques jours. Le mec est impressionnant quand même. Le mec a 19 ans, il a quand même tout le monde qui parle de lui déjà comme un futur ballon d'or. Donc, si tu veux, le mec, il est quand même azimuté. Ouais. Le mec, c'est un enfant. Mais c'est pas un enfant qui se prend au sérieux, parce qu'il se prend au sérieux. Hein. Le mec, d'ailleurs, tu vois bien.
Il peut en même temps.
Oui, il peut. Non, mais il se prend au sérieux dans le sens où le mec est là pour être numéro un. Il n'a pas envie d'être numéro deux.
D'accord.
Par contre, tu le vois, la façon dont il parle et tout. Le mec est tellement gentil. C'est un chouette mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est un chouette mec. Il va réussir. Moi, en fait, en le voyant là, et j'ai dit au mec de l'agence, lui, il va aller très très loin. Parce qu'en fait, il a le mental de ce qu'il va devenir. Il est gaulé intellectuellement pour devenir un très très grand. Il n'a pas que le jeu et tout. Parce qu'en vrai, c'est comme tu as raison pour les entrepreneurs. Tu as ce que tu as.
Les compétences et tout.
Les compétences,
mais c'est le mental.
Et après, tu as ce qu'il y a là-haut. Quoi. Et honnêtement, parfois, je me pose la question, est-ce qu'il y a des moments où j'aurais pu exploser en vol? Ouais, carrément. Il y a eu des moments où notamment au début, où j'aurais pu tout abandonner et dire « Ah non, mais c'est trop dur, quoi. » C'est dur, hein, franchement. Et on va pas se mentir, c'est magnifique quand ça marche. Et c'est un aboutissement de ma boule à vivre. Mais en vrai, c'est aussi un aboutissement de ma boule parce que tu sais par quoi tu t'es passé. Ça. Et tu dis « Putain, j'ai réussi. »
C'est difficile à décrire, je trouve, en plus. Parce que, en fait, même si t'as
dit, non, mais, une image. Vas-y.
Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que même si t'as du succès et que là, Buzzman cartonne, etc., en fait, comme tu dis, t'es passé quand même par des moments, c'est presque inexplicable, mais où, en gros, tu penses que ça va être la fin du monde dans 3 jours.
Tu vas crever.
Tu penses que tu vas mourir, tu n'arrives pas à dormir. Enfin, alors, peut-être pas toi, mais et pourtant, en fait, c'est la somme finalement des petits succès et du fait que tu as réussi à bander les abdos et à ne pas crever quand tu étais dans les moments au fond du trou qui font que ça reste. Quoi.
Mais en réalité, je pense même que si tout se passe bien, en fait, c'est pas intéressant.
Non, c'est sûr.
C'est pas intéressant parce qu'effectivement, les moments où on a... où on a perdu, tu sais, déjà c'est simple, nous on a un truc qui s'appelle les appels d'offres. On bosse des fois pendant 2-3 mois,
tu dois perdre des trucs,
tu présentes et tu perds. T'as bossé jour et nuit et on te dit eh ben non, c'est pas vous, c'est ton pote, c'est ton voisin qui a gagné. Là c'est dur. Et à ça, je pense que je suis bon, c'est-à-dire que passer à autre chose,
rebondir rapidement,
dire, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout, on va aller chercher d'autres trucs. À ça je suis bon.
Et c'est une culture que tu as inculquée aussi aux équipes?
Je pense, ouais. Il n'y a rien de très grave, en fait. En fait, pour l'instant, on a vécu plein de choses graves, mais au final, il n'y a eu rien de très grave. Un jour, je te donne une anecdote quand même, il y a une boîte qui avait 2 millions d'impayés. Ils ont failli planter la boîte. Ils nous devaient 2 millions. Et c'était quasiment un de nos plus gros clients. Et on leur a dit, mais vous êtes malade, en fait. Vous allez crever notre boîte, en fait. Ce jour-là, là, j'ai dit...
Là, t'as eu un peu peur quand même.
Là, tu commences, t'es en mode funambule, quoi. Tu dis là, faut vraiment que je sois bon, quoi. Mm. Mais d'ailleurs, c'est assez injuste parce que tout est basé sur les décisions que tu prends. Des fois, tu prends juste, tu sais, tu prends la petite ruelle à gauche.
Ouais, tu peux pas savoir. En
et
plus.
Tu peux pas savoir ce qui va arriver. Et t'as la bagnole, t'as une bagnole qui arrive et boum, t'es mort. En réalité, je pense que c'est aussi toutes les souffrances, toutes les peines, tous les. Puis c'est un truc d'équipe, tu vois. Moi, je trouve qu'en vrai, la vraie image que moi j'ai, c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Pour moi, c'est, tu sais, les mecs qui allaient dans la jungle et tu sais, ils sont dans des sables mouvants et ils ont un couteau dans les dents. Et tu sais, t'as des feuillages avec
et ils sprayent le passage.
Ouais, ils sprayent le passage et t'as des animaux avec des têtes cheloues, t'as des bruits, genre où tu te dis, oulala, c'est très inquiétant. En fait, pour moi, c'est ça.
Ouais.
Et en fait, quand t'arrives et tu sais, t'as la scène finale,
sais pas ce qu'il y a devant,
ils arrivent comme ça. Et en fait, ils arrivent, ils traversent ce truc. Et là, ils arrivent. Et à la fin, t'as un paysage de Maboul qui est sublime avec, tu vois, un truc luxuriant avec un super oiseau de couleur qui passe à côté. En fait, pour moi, c'est ça. En fait, tu kiffes d'autant plus ça parce qu'avant,
tu sais par quoi t'es passé.
T'en as tellement chié et tout. Alors, c'est un peu caricatural de dire ça, mais en réalité. Enfin, tu vois, t'es d'autant plus heureux. L'année dernière, je me rappelle, quand on a perdu Mythique, qu'est-ce qu'on était content d'avoir gagné Boursorama. Mm. Tu vois, on l'a perdu et pendant qu'on l'a perdu, on était en pitch sur Boursorama. Mm. Et franchement, on était effondrés parce que Mythique, c'était un truc vraiment auquel
bien
on
sûr.
Était hyper
attaché
et tout. Et on avait un truc presque sentimental, tu vois. Ça, c'était vraiment dur. Mm. Et là, de remettre la dose en toi, remettre la dose à toute l'équipe. Mm. C'est ça aussi être président. En réalité, c'est
oui,
ça être
c'est
président.
Aussi motiver
c'est d'avoir. En fait, c'est de savoir mentir. En vrai, c'est de faire croire que t'es en patate alors que t'es au fond du seau, tu vois. Ouais.
Bon, et comme je vois que le temps passe un petit peu, je vais te laisser tranquille. Mais pour terminer, j'aime bien parler un tout petit peu plus de vie perso et j'ai des petites questions rapides. Tu peux y répondre plus longuement, mais elles sont rapides. Déjà, en fait, on a parlé rapidement de bouffe. Moi, j'aime bien tout ce qui a trait à la santé et notamment donc sport, alimentation.
Ouais.
Est-ce que tu fais gaffe? Est-ce que tu suis un peu un régime particulier?
Oui.
Est-ce que c'est un truc qui te tient à cœur?
Ça me
et
tient
pourquoi
beaucoup à... Ça me tient beaucoup à cœur parce que il y a 7 ans, j'ai fait un régime et je me suis rendu compte que notre alimentation, c'était... Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, en fait, tous ces cancers... Ça doit venir beaucoup de l'alimentation. Et m'est revenue cette image quand j'étais gamin de faire une visite dans une ferme et où ils gavaient les oies. Et gavaient les oies et tout. Et donc là, ils faisaient des foie gras. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, un foie gras, c'est une tumeur du foie. En fait, c'est une malformation, c'est une maladie du foie.
Ouais.
Et en fait, j'ai vérifié et c'est le cas. En fait, un foie gras... C'est une tumeur du foie.
Quelle horreur.
C'est ça, en fait. Et pourtant, tu avais commencé à diaboliquement
mort. Bon.
Et comme je suis un kiffeur, je continue à manger du foie gras parce qu'il ne faut quand même pas déconner et je viens du sud-ouest. Mais par contre, ça m'a vraiment fait un gros reset alimentaire. Mmh. Et aujourd'hui, j'adore manger, mais d'abord aussi parce que j'ai bientôt 50 piges et qu'à un moment, tu dis...
C'est plus pareil.
La machine, il faut quand même un tout petit peu faire attention à elle. Mmh. En fait, je crois que c'est juste ça. Il faut juste faire un peu attention. Je fais plus de sport. Je mange...
Et du coup, c'est quoi un peu tes quelques règles d'hygiène de vie de base?
Je me fais plaisir et quand je fais gaffe, je fais vraiment gaffe.
D'accord.
Je peux me mettre en diète.
Donc, tu es plus par phase, j'ai... tu bouffes bien et puis ensuite, tu fais des diètes, quoi.
Ouais, pas des diètes parce qu'il ne faut pas déconner, mais je m'en fais... Alors, par exemple, quand je fais des excès, je peux me mettre 48 heures en diète.
D'accord. Ah
tu
oui,
vois,
quand même.
Je peux mettre des trucs comme ça. Je peux manger pendant une semaine que des légumes. Mais en fait... Tu te rends compte que quand tu fais ça, d'abord, c'est hyper satisfaisant, même mentalement, parce que d'abord, tu te montres à toi-même que tu t'intéresses à toi-même. Non, mais que tu t'intéresses à toi-même, que tu fais attention à toi.
Ouais.
Donc, en fait, c'est toujours le truc, l'estime de soi, ça fait toujours du bien. Et puis, ça te fait du bien même tout simplement dans le corps. Quoi.
Bah, physiologiquement, tu te sens
plus
d'énergie.
Tu as plus d'énergie. Et maintenant, quand je me prends une caisse, je mets 3 heures à m'en remettre. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas de m'en prendre.
Et au niveau
sport,
parce que
c'est quand même cool de picoler.
Ouais, des bons, on a, dans la
j'aime
région,
de plus en plus le bon vin. Je pense que je vieillis, en fait. Hein. Avant, je picolais de la vodka et maintenant...
C'est l'habitude. Hein. Les gens qui vieillissent, ils aiment les bons vins parce que finalement, ils savent, ils ont goûté plein de trucs. Non, mais ils savent que c'est ce qu'il y a de meilleur aussi, tu vois.
Ouais, et puis parce qu'ils savent que la vodka, c'est quand même compliqué.
C'est un peu plus dur le lendemain
matin. Récupérer, ouais, exactement.
Et au niveau du sport, du coup, toi qui étais quand même un vrai sportif, tu fais quoi maintenant?
Alors moi, j'ai rien foutu de sport pendant 20 ans, ce qui m'a permis de monter carrément au quintal. Donc le jour où je suis arrivé à 97, là je me suis
dit... Le quintal, on ne me l'avait jamais fait,
ouais, celle-là. Le quintal. Bah, le quintal, moi je suis physique-chimie. Hein. Ouais. Et je me suis dit, oulala, et là il y a un problème. Et du coup, bah, j'ai fait un régime. Et là, aujourd'hui, je dois faire 82, 83 kilos, tu vois. Et c'est bien, j'ai perdu 15 kilos dans lequel je me maintiens. Et de temps en temps, par contre, je me prends une petite folie. Pendant 2 mois, je fais régime et où je peux perdre 3-4 kilos, mais plus pour une sorte de petit challenge que je me fais à moi-même. Je fais du sport. Là, j'ai une coach. J'ai une coach avec laquelle je fais un peu de crossfit. Je fais un peu de vélo, je nage. Mais pas les trucs vénères.
Non.
Même le crossfit, c'est vraiment ce truc cool. Je me fais pas.
Mais juste pour t'entretenir, quoi. Parce que c'est important pour toi de te sentir
pour
bien.
Pour me rappeler que le corps, il existe. Voilà. Pour, tu vois, suer un bon coup. Je le fais pas assez à mon goût. Hein. Je me suis vraiment promis de faire. L'année prochaine, j'aurai 50 ans, je vais faire le marathon.
Ah, top.
Donc là, je suis en challenge. Là.
C'est vrai. Ah bah écoute, on le fera peut-être ensemble parce que moi aussi, j'ai bien envie. Mais je suis
un peu. Au mois d'avril?
Je vais peut-être essayer. Mais écoute, on va peut-être se serrer la main à la sortie de cette interview, il faut voir. Mais je me chauffe un peu.
Moi, je te chauffe quand tu veux.
Ça marche. Niveau sommeil, mon cher Georges, tu es un gros dormeur ou pas du tout?
Je vieillis, donc moi... qu'est-ce que c'est chiant de vieillir, en fait. Non. En réalité, franchement, je pense que je dors bien avec 7 heures. Moi, je pense que mon rythme, ça doit être 7 heures. Et moi, je me réveille vraiment sans réveil. J'ai ce luxe-là de me dire, j'essaie au minimum de faire des réveils, de mettre des réveils. Donc, j'essaie au minimum d'avoir.
Mais parce que tu te réveilles tôt naturellement ou parce qu'en fait, tu t'en fous et tu peux arriver au bureau plus tard?
Parce que je décide de le faire comme ça. Je me suis pas posé la question parce que ma tête me dit, moi, je suis pas un mec du matin. Et malgré le fait qu'en vacances, par exemple, j'adore me lever tôt et aller me balader et tout, mais c'est pareil, c'est s'écouter. Moi, je pense que c'est vachement important de s'écouter. Moi, le matin, j'aime bien pioncer, j'adore le lit, j'aime pas qu'on me dise il faut que je me lève à 6 heures du matin. J'aurais pas pu faire un emploi où il fallait que je me lève à 6 heures. Voilà. Donc, quand j'ai fait une analyse de ce que je suis, un jour, je me suis dit bon, mais il faut pas que tu fasses un taf où tu te lèves à 6 heures parce que tu seras pas bon. Donc, j'ai fait un taf où je peux arriver un peu plus tard. Donc, j'ai fait de la pub.
Très bien, parfait.
Tout ça est finalement assez logique. Tout est basé sur...
se connaître, quoi.
C'est Fanny qui me disait ça. Elle me dit, toi, t'es un gestionnaire du kiff. Moi, j'aime bien kiffer, mais en plus, j'essaie de gérer.
Écoute, je pense qu'on a trouvé le titre de l'épisode. Gestionnaire de kiff.
Je sais pas si ça me résume bien, mais en tout cas, c'est... pour une grande partie de ma personnalité, je pense que c'est pas très très faux.
Génial. J'ai deux dernières questions que j'aime bien poser. La première, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Peut être dans la vie personnelle ou professionnelle ou en sportive, ce que tu veux.
C'est ma maman sur son lit de mort qui m'a dit « profite parce que ça va très très vite ». Et comme déjà j'avais l'ambition d'en profiter, si tu veux, ça n'a fait que confirmer ce que j'avais en tête. Donc j'ai vécu ce moment assez incroyable de vivre le dernier souffle de ma maman. C'est ses dernières paroles, c'est ce qu'elle m'a dit en tête à tête, parce qu'après elle nous a parlé
c'est assez incroyable comme...
Ouais, elle m'a dit, mais c'est vraiment ses mots en kabyle, elle m'a dit profite parce que tu vas voir ça va très très vite, donc j'en profite.
T'as bien raison, je pense que ce sont des sages paroles. Et la dernière question, c'est au niveau lecture. Alors, je ne sais pas si tu lis beaucoup, mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont soit particulièrement marqué, soit que tu as aimé recommander à d'autres personnes? Ça peut être littérature, ça peut être business, ça peut être, je sais pas, sur de la pub, ça peut être des biographies, c'est vraiment strictement ce que tu veux.
Il y en a quelques-uns, ouais. Le premier, c'est Camus, L'étranger de Camus, pour plein de raisons. D'abord, parce que je trouve que... la façon d'écrire l'histoire et tout m'a bouleversé. Bouleversé dans le sens, j'adorais ce truc. C'était comme un bon gâteau, quoi. Et après, il y avait un autre truc et je me rappelle là, j'avais jamais pensé. Tu vas voir, c'est assez chelou. Mais qui me ramène à ce que je suis un peu. C'était en 95, donc j'étais à Paris depuis 2 ans.
Ouais.
Il y a eu les attentats à Saint-Michel, je crois que c'était en 95.
Tout à fait, 95.
Et en fait, J'avais lu L'étranger de Camus quand j'avais genre 17 ans et je l'avais retrouvé dans ma bibliothèque quand j'étais étudiant et j'avais envie de le relire. Et donc je lisais dans le métro, tu vois, comme ça. Et en fait, je revoyais les gens qui me regardaient lire L'étranger avec ma tronche. Et il y avait une drôle de... Tu sais, les gens me regardaient un peu bizarrement. Il y avait une sorte de provocation que je trouvais bien parce qu'en fait, moi, je ne le lisais pas du tout pour les provoquer. Ouais. Mais... Et ça m'a rappelé que j'étais étranger, en fait. Enfin, moi, tu vois, je suis pas français. Moi, je suis un mec du Lot-et-Garonne. J'ai passé une autre étape. Mais ça m'a rappelé. Je me suis dit, ouais, t'as une bonne tête de rebeu, quand même. Et c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être aussi une façon de me dire, bah, en fait, je m'en fous parce que moi, je suis pas étranger, en fait. Tu vois, je suis avec vous. Et je me rappelle qu'il y avait les attentats et j'avais peur. J'avais peur d'être à Paris et d'être victime des attentats. Donc Camus, c'est un truc que j'ai beaucoup recommandé et dernièrement, j'ai un peu des petites obsessions de temps en temps comme ça. Justement le truc de Idrissa Berkane.
Ah ouais, non, je l'ai pas lu.
Libérez votre cerveau, que je recommande vraiment parce que c'est assez exploratoire et ça a l'air très technique, mais finalement c'est super bien expliqué.
Oui, c'est censé être assez accessible.
Et puis ça te raconte ce qui se passe dans ton cerveau et des mécanismes de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et un dernier, c'est le truc de Malène qui s'appelle Heureux comme un Danois.
Oui, alors ça aussi j'en ai entendu parler, mais
j'ai pas lu. J'adore. Alors que je vous conseille parce que ça te dit quand les gens essayent de voir et cherchent, tout le monde cherche le bonheur.
Ouais.
C'est quand même super bien foutu, quoi. Parce qu'en gros, si tu veux le pitcher en deux mots, c'est elle te dit les 10 raisons pour lesquelles le peuple danois est le...
C'est ça qui est censé être le plus heureux du monde.
Ouais, tous les ans, depuis de nombreuses années, elle a fait une sorte de réflexion de pourquoi.
Et moi, j'ai entendu dire à plusieurs reprises que c'est en partie parce qu'ils ont des attentes qui sont assez faibles.
C'est pas du tout ce que je retiendrai. Le premier truc que je dis en général quand je raconte ce bouquin, c'est un truc sur la confiance.
D'accord.
Et alors tu vas voir, il y a un truc très simple. C'est pas un truc sur la confiance en soi, c'est un truc sur la confiance sur les autres. Et alors, en fait, elle te dit un truc très simple. Quand t'as confiance en les autres, t'es quand même assez tranquillisé. Je te donne un exemple. Au Danemark, tu vas dans un marché, les mecs, ils laissent les légumes comme ça. T'as une caisse, c'est toi qui payes les trucs et tu te barres.
Comme en Suisse.
Voilà. Et donc, si tu veux, la confiance que t'as en les autres, ça t'enlève quand même beaucoup de soucis.
Ça t'apaise, ouais, c'est
ça
sûr.
Ça t'apaise un peu. Et en fait, juste ce paragraphe sur la confiance en les autres, il est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais d'ailleurs, comme dans une boîte, la plus grosse difficulté de déléguer, c'est parce que c'est à partir du moment où tu fais confiance aux autres. Quand tu as confiance aux autres et que tu sais qu'ils vont bien faire le taf et que tu arrives à déléguer sans te dire, ah, mais est-ce qu'ils vont bien le faire et tout, ben, en fait, t'es plus tranquille.
Bien sûr.
Donc ouais, le truc de heureux comme un Danois.
Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Georges, merci mille fois. Je t'ai pris beaucoup trop de temps. C'était génial.
Non, c'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer.
Écoute, si les personnes qui nous écoutent cherchent à te contacter ou à te suivre sur divers réseaux dans le monde merveilleux du web, quel est le meilleur moyen de le faire?
Ils peuvent me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram. J'ai Mohamed Chérif.
Parfait. C'est le cas aussi, c'est le même pseudo sur LinkedIn a priori.
Sur le nom, c'est mon nom.
Je mettrai ça dans les notes en tout cas.
C'est juste mon nom en
fait. Très bien.
Cool. Georges, merci beaucoup.
Merci mille fois.
C'était un plaisir.
Au revoir.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, les directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.